Europe Matin Weekend.
Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? Couvrez-vous, hein, surtout il fait assez froid dehors. Un temps à aller au théâtre, on célèbre aujourd'hui les 400 ans de la naissance de Molière. Mais oui, Molière qui critiquait les bourgeois, les faux savants, les hypocrites. Un Gaulois réfractaire avant l'heure. On va en parler ce matin, le comédien Jacques Weber sera avec nous tout à l'heure à 7h10. Et puis on évoquera Molière avec plein de beaux livres dénichés par Nicolas Caro à 8h moins le quart. Allez, tous en scène, on est parti. C'est votre matinale week-end, on est ravis de vous savoir avec nous. Merci d'écouter Europe 1. Il est 6h, bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Et la première édition est présentée par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Jean Castex assume, si vous voulez conserver votre passe, il faut vous faire vacciner. Nous l'entendrons ce jour de désactivation du passe sanitaire pour quelques 700 000 Français.
Éric Zemmour dans les Hauts-de-France, Marine Le Pen en Bretagne et Christiane Taubira à Lyon. Les candidats à l'élection présidentielle sont tous sur le pont.
Et puis vous le disiez Thierry, Molière a 400 ans, matinale spéciale Jean-Baptiste Poquelin ce matin sur Europe 1. Et nous irons à la rencontre de jeunes comédiens à la fin du journal.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, les pronostics de Thierry Léger pour le Quintet à Vincennes aujourd'hui. Avec Mélanie Gomez et Julia Vignali, on parlera du sommeil des enfants. Et puis à 6h20, votre rendez-vous conso, un premier week-end de soldes important pour les petits commerces. Mais tout d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon. Bonjour très chère Valérie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Il fait froid.
Actuellement, moins 5 à Ambérieu, moins 1 à Paris, moins 2 à Strasbourg, moins 3 à Montpellier, moins 4 à Cognac. Et de nombreux brouillards givrants en Bretagne, sur les pays de la Loire, de l'île à Paris, dans les vallées de la Garonne, dans le Val-de-Saône ce matin, du soleil au sud dès son lever. Par exemple, à 8h29 à Brive-la-Gaillarde et à 8h08 à Marseille.
Allez, un point complet dans 7 minutes avec vous. À tout à l'heure. Si vous n'avez pas reçu votre troisième dose de vaccin, votre passe sanitaire risque d'être désactivé dans
la
journée.
En résumé, si vous n'avez pas fait le rappel dans les temps, mais dans un certain nombre de cas, vous avez encore un petit peu de temps. Par exemple, si vous n'êtes pas éligible à la dose de rappel ou encore si vous avez fait votre deuxième dose il y a moins de 7 mois. Le 15 janvier, c'est une date butoir pour pousser la population à faire la dose de rappel. Auquel cas, à partir d'aujourd'hui, 700 000 Français vont perdre l'accès à toute activité régie par le précieux sésame.
Se faire vacciner, c'était d'ailleurs le message de Jean Castex hier.
Oui, le Premier ministre était en déplacement à Lyon, dans un centre de vaccination. Et le constat effectué par les médecins, c'est que justement, l'arrivée prochaine d'un pass vaccinal a convaincu certains de franchir le pas.
C'est l'excellente nouvelle absolument. De cette fin d'année 2021, ce début 2022.
Ah oui, absolument.
Je le dis, la simple annonce du pass vaccinal a boosté les premières.
Et puis alors, on a vu la population changer. On a commencé avec des personnes âgées. Aujourd'hui, la population qui vient se faire vacciner, c'est entre 20 et 40 ans.
Oui, mais ça tombe bien, c'est là qu'on absolument. A le retard à combler.
D'abord, on essaye de ne pas les choquer. On ne va pas les agresser quand ils arrivent en leur disant « Pourquoi vous arrivez maintenant ?» Et alors, surtout, c'est la peur qui domine souvent. Donc, on voit des jeunes femmes qui avaient une grossesse, qui avaient peur pour le fœtus. On leur a expliqué que c'est l'inverse. Ça, c'est en train de se corriger. Et c'est des gens qui avaient peur, qui étaient inquiets, et qui, maintenant, vu la propagation du virus, les amènent à se faire vacciner aujourd'hui et à venir pour la première fois.
Tant mieux, très bien.
Voilà. Voilà l'échange de Jean Castex avec ce médecin de Lyon au micro de Jean-Luc Bourgeot, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et puisqu'on parlait du virus il y a un instant, j'ajoute que 330 000 personnes ont été testées positives ces dernières 24 heures. Mais en réanimation, le chiffre baisse pour la deuxième journée d'affilée.
La politique, Éric Zemmour était dans les Hauts-de-France, dans le Nord et l'Aisne pour parler éducation.
Oui, le candidat y a fait un déplacement également plutôt stratégique, notamment adressé aux classes populaires, Victor Chabert.
Oui, Éric Zemmour a débuté sa journée dans le petit village d'Aunecourt-sur-Escaut, dans l'Aisne, après avoir rencontré le maire qui lui a apporté son parrainage. Il a échangé avec des enseignants, puis des habitants.
Franchement, on n'arrive plus, les frères de moi, on n'arrive plus.
Eh ben, j'ai prévu beaucoup de choses, justement, pour les salaires comme les vôtres. C'est-à-dire que, par exemple, je vais baisser vos charges sociales, votre CSG que vous payez, et ça va vous faire à peu près 1 200 € sur l'année en plus.
Dans les Hauts-de-France, Éric Zemmour veut unir les droites et séduire les classes populaires. Après avoir passé la journée sur des terres acquises à Marine Le Pen, il a donné un meeting à Saint-Quentin, la ville du LR Xavier Bertrand. Dans son discours, il a insisté sur l'école qu'il veut remettre au service des plus précaires.
L'école n'a pas seulement failli, elle a trahi sa vocation. Vous attendiez de l'école qu'elle donne à vos enfants ce que vous aviez perdu, qu'elle remplace votre courage épuisé par leur courage naissant. Elle fait le contraire.
Son déplacement se poursuit aujourd'hui à Villers-Cotterêts, ville Rassemblement National de l'Aisne, sur le thème du patrimoine.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1, Marine Le Pen, elle, on vient de l'entendre, était en Bretagne à la rencontre des pêcheurs et des agriculteurs. Et Christiane Taubira doit lancer sa campagne à Lyon aujourd'hui. Sa rivale Anne Hidalgo ne sera pas très loin à Villeurbanne, banlieue lyonnaise.
Gagner de l'argent en le dépensant, ça vous tente? Eh bien, on teste ce matin le cashback en ligne.
Oui, ce n'est pas une arnaque, hein, c'est même vieux comme le monde. Vous dépensez et récupérez une forme de commission. C'est plutôt pratique si vous comptiez faire les soldes en ligne ce week-end. Voici les précisions d'Élise Dangean.
Avec le boom du commerce en ligne, le cashback recrute sans cesse de nouveaux adeptes, des enseignes partenaires et des amateurs de bonnes affaires qui parviennent en moyenne à gagner 150 euros par an. Pour cela, il y a donc des sites et des applications dédiées comme Poulpeo qui, pour la deuxième année consécutive, enregistre une croissance de 40%. Mais selon ses estimations, seul un Français sur quatre a déjà profité du cashback. Alors les entreprises spécialisées misent tout sur leur système de parrainage, comme l'explique Thomas Ozed, directeur général de Poulpeo.
Le bouche à oreille est essentiel pour ce type de service parce que, évidemment, il y a une notion de confiance. Les gens se disent, c'est pas possible, il y a forcément une arnaque, ça doit être compliqué à utiliser, donc c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que souvent, quoi de mieux finalement que ce soit un proche qui vous accompagne, un petit peu comme il y a 5-10 ans où c'était vos proches qui vous accompagnaient dans vos premiers achats sur des boutiques en ligne.
Autre enjeu pour les spécialistes du cashback comme Igral, le leader du marché, ou Joco, développer le cashback en magasin. Ça a déjà commencé dans la grande distribution et ça pourrait s'étendre, y compris chez les petits commerçants.
Élise Dangean pour Europe 1. Si vous êtes plutôt la version économe, le livret A, lui, passera de 0,5 à 1%. Et pour le livret d'épargne populaire, c'est plus qu'un doublement. Il va passer de 1 à 2,2.
Alors, on passe au sport à présent. L'information de la nuit, Novak Djokovic est de retour en rétention.
Oui, pour disputer l'Open d'Australie, lundi, ça commence à sentir un peu le roussi. Le numéro 1 mondial a vu l'annulation de son visa pour la deuxième fois par le gouvernement australien, lequel continue de soutenir que le joueur non vacciné constitue un danger public.
Et on sera à Melbourne dans le journal de 6h30. Le foot, 21e journée de Ligue 1 et invité de marque ce soir sur Europe 1, Jean-Michel Aulas.
Oui, le patron de l'OL depuis 1987. Il a tout connu avec son club, des années de gloire à décision un peu plus délicates comme cette année notamment. Il va parler de l'actualité du moment et de son joueur fétiche. Il l'a vu grandir, Karim Benzema, adversaire du PSG pile dans un mois en Ligue des Champions.
Oui, incontestablement. Et c'est vrai qu'il y a un antagonisme entre sa réussite extraordinaire, à laquelle on est associé par le cœur, par la filiation. Et puis on se dit à chaque fois qu'il marque un but de plus et qu'il est aussi performant, qu'il s'éloigne du jour où il va revenir à Lyon. Quoi, parce que bon, je ne vois pas le président de Madrid qui était venu ici. On avait visité à Villeurbanne, Karim chez lui ensemble. Je ne le vois pas là chez Karim. Voilà. Mais ceci étant, ça c'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir le faire revenir, alors je ne sais pas comment, si ce sera comme joueur, comme éducateur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve.
Voilà, le rêve de voir Karim Benzema de nouveau à Lyon. L'entretien de Jean-Michel Aulas sur Europe 1, c'est à suivre ce soir dès 20h45, en parallèle du match de la 21e journée PSG face à Brest. Hier, Nice a gagné contre Nantes, 2-1, Nice provisoirement deuxième.
Et PSG-Brest, vous êtes pour qui?
J'y serai ce soir. Je serai pour Brest, je suis tout en rouge.
Bon anniversaire, Lénaïque Monnier.
Merci beaucoup, c'est charmant.
C'était le journal de Lénaïque Monnier, à tout à l'heure, Lénaïque. Le temps de votre samedi, Valérie Darmon.
Eh bien, la journée est très calme. Juste après la dissipation des bancs de brouillard givrant matinaux sur un petit tiers nord, pointe bretonne, basse Normandie, pays nantais, nord Picardie, bassin parisien et Alsace. Des brouillards qui peuvent rendre vos chaussées glissantes, soyez prudents. Le soleil de son côté s'impose dès ce matin, dès son lever, sur une grande moitié sud. Les grisailles sont un tout petit peu plus nombreuses au lever du jour entre midi toulousain et sauternais et dans les Landes. Et puis la pluie qui arrive en toute fin de journée, début de soirée même, par la pointe bretonne. Et il fait froid.
Et il fait froid, les températures.
Et oui,
ça donne
froid.
Vous êtes
très couverts ce matin. Des minimales entre moins 11 à Brive-la-Gaillarde, moins 11 tout de même. Et 3 degrés à Nice, moins 8 à Montluçon, moins 6 à Aurillac, moins 5 à Bourg-en-Bresse, moins 4 à Angoulême, moins 3 à Troyes, moins 2 à La Rochelle, moins 1 à Embrun et Marseille. 0 tout rond à Paris et des maximales entre 1 à Dijon et 14 degrés à Nice qui vont grimper sous l'effet du soleil.
Merci beaucoup Valérie. Rendez-vous bien sûr à 6h30. Dans un instant, on va parler de nous, de vous et du sommeil de nos enfants. Et puis à 6h20, tous les samedis, la question conso ce matin. Gros plan sur ce premier week-end de solde. Important pour les petits commerçants. Je reçois dans un instant Agnès Crozet de l'Observatoire Société et Consommation. Mais avant cela, prenez vos papiers et crayons, c'est l'heure des pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, il y aura un quintet plus cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Une course au trot attelé qui réunira 16 chevaux âgés de 7 à 11 ans sur la distance de 2700 mètres avec deux bons favoris. Les numéros 6, Décoloration, et 3, Et voilà de Muse, qui ont souvent fait jeu égal ces dernières semaines, notamment à Vincennes, sur des tracés similaires et qui n'ont qu'à répéter leurs meilleures performances pour postuler ici aux premières places de ce quintet. On leur opposera les numéros 14, Cache du Rib, déféré cette fois des 4 pieds, une configuration où il a rarement déçu. 9, Élite Beaufour, lui aussi pieds nus et revenu à son meilleur niveau. Et 15, Elvis Duvallon, dont les 3 dernières tentatives sont vraiment trop mauvaises pour être exactes. Enfin, les numéros 5, Delfino, 7, Fric du Chêne et 16, Brillant Madric sont autant de possibilités pour compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 6, 3, 14, 9, 15, 5, 7 et 16.
Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, 11h, midi 30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h11 tous les week-ends à cette heure-ci, les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous en semaine du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine le docteur Arnaud Pfersdorf, il est médecin pédiatre pour parler du sommeil de nos enfants.
Est-ce que c'est très fréquent, ces troubles du sommeil, ces bébés, ces enfants qui ne font pas leur nuit?
C'est énormément fréquent. C'est une des causes de consultation les plus répandues, en particulier en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a un effet Covid, angoisse générale et tout ça, probablement. Mais j'ai envie de dire, je veux rassurer les parents. Il faut rappeler qu'un bébé, c'est les parents qui vont... Tout de suite, au départ, hein, quand bébé est là, c'est pas dans le mode d'emploi que bébé va pleurer. Il a que ce moyen-là pour s'exprimer vers ses parents. Eh bien, je rappelle aux parents, c'est vous qui vous calez sur le rythme de votre bébé. Et c'est pas le contraire. Parfois, j'entends l'un ou l'autre parent qui dit « laisse-le pleurer, c'est des caprices ». Ça, ça n'existe pas chez les enfants.
Ça n'existe plus, parce qu'avant, c'est ce qu'on disait. Ouais. Longtemps.
C'était un peu ce qu'on disait. C'était l'éducation d'antan qu'on avait. Moi-même, j'ai subi ça. Oui. Où j'ai
moi, j'ai même
connu
fait ça à mon grand de 12 ans et je l'ai laissé pleurer 20 minutes. Je l'ai torturé, en fait. Parce qu'on nous conseillait ça à l'époque.
Hein. Et oui, il faut vraiment respecter le rythme du sommeil de l'enfant. Je rappelle qu'un bébé a un rythme qui est ultradien, c'est-à-dire qu'il est rythmé une tétée ou un biberon, je dors. Je mange, je dors. Il n'est pas rythmé encore en fonction de la mélatonine ou du soleil, etc.
Bien sûr. Docteur, on est d'accord que vous les voyez en consultation, ces parents désespérés avec un enfant qui fait toujours passer nuit à 1 an, 2 ans. Et ce sont des conséquences qui sont vraiment pour toute la famille, on est d'accord. Pas que pour le petit, parce que mal dormir, ce n'est pas très bon pour un enfant, mais ce n'est pas bon pour toute la cellule familiale.
C'est un cauchemar.
Pour le couple
j'ai
aussi.
Envie de dire. Je vois même des couples qui peuvent éclater à cause de ça. Le problème du sommeil, c'est que parfois les parents ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même attitude et ils oublient une chose essentielle. Moi j'aimais bien ce qui était dit avant sur la méditation, il faut s'écouter et il faut écouter son enfant. Et on est trop dans des contraintes, dans des contrats d'objectifs, dans des to-do list, etc., etc. Et on ne se rend pas compte qu'on a un petit bout qui est là, qui est en train de se construire, qui a un cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, qui a un néocortex qui va se construire dans les mois, les années qui viendront. Laissons-lui le temps, écoutons-le.
Alors justement, je pense aux parents qui nous écoutent, ça veut dire quoi, lui laisser le temps? En gros, physiologiquement, un bébé est prêt à faire ses nuits au bout de combien de mois?
On va dire qu'un nourrisson va commencer à vraiment caler son rythme de sommeil en moyenne vers l'âge de 4 à 6 mois.
Pas les miens.
Ça laisse un peu du temps pour avoir des nuits difficiles en tant que parent. On se relaye, on peut avoir des tours de garde. Tout dépend aussi si on fait du cododo ou pas. Le cododo,
c'est
très bien.
S'il y a de l'allaitement ou pas aussi.
S'il y a de l'allaitement ou pas.
Vous êtes favorable au cododo?
Ah oui, c'est très bien. Mais je suis favorable à condition qu'on ne le fasse pas pendant 6 mois ou 1 an.
C'est combien
Pourquoi
de temps?
Pourquoi? Parce que après, on a du mal à dropper l'enfant et à le mettre quand la maman reprend le travail ou si le papa reprend le travail. Enfin, il peut y avoir des conditions un peu compliquées. Et il faut rappeler que bébé qui dort dans la chambre des parents, si la maman allaite, ça sent le lait.
Et oui.
Partout. C'est comme nous, si on rentre dans une pizzeria et qu'on s'installe, ça sent bon la pizza, on a faim, on s'installe et on ne vous passe pas commande, vous allez avoir des crocs. Et ben, le bébé, il vit avec les sens, avec l'odorat, le pot à pot, etc.
Et ça le rend fou.
Et en fin de cycle, il devient fou, il sent le lait de sa maman. Ah, s'il est dans sa chambre, c'est un peu plus facile et le papa peut intervenir.
Donc les mettre dans leur chambre, ça peut les aider vraiment
à
dormir.
Au bout de 2-3 mois, c'est pas mal de passer dans la chambre.
Est-ce qu'on pourrait revenir quelques secondes sur les erreurs du coucher que vous retrouvez le plus souvent chez les parents épuisés? C'est quoi les erreurs les plus communes?
Alors, vous l'avez dit vous-même, Julia, parents épuisés. Quand on est épuisé, on est prêt à tout. Mais souvent, on est complètement à côté de la plaque parce qu'on est épuisé, justement. Et en plus, on n'est souvent pas d'accord, les deux parents, parce qu'on n'a pas la même opinion, on n'a pas le même ressenti, etc. Et puis, il faut reconnaître qu'un enfant se calme parfois plus facilement avec maman qu'avec papa, ou le contraire. Donc, tout ça, ça peut un peu... Voilà. Les choses à éviter, c'est de passer une heure à raconter des histoires qui vont trop stimuler l'enfant.
Le rituel du coucher, il est rapide.
Le rituel du coucher, on va passer du temps. On va mettre la pénombre dans la chambre quand on va l'emmener. On ne va pas lui dire c'est l'heure d'aller au lit. Si je vous dis à vous, adulte, souvenez-vous de cette parole qui est incrustée dans votre cerveau, dans notre cerveau.
Va au lit.
Du genre, va au lit.
Bah, j'ai plus envie d'y
c'est
aller.
C'est un stress horrible.
Mais je
pour
dis quoi
adultes.
Alors je dis
Quel
quoi
que soit notre âge. On dit, tu m'invites dans ta chambre?
Ah oui, c'est intelligent.
Et un conseil que je donne aux parents, c'est de rendre la chambre de l'enfant conviviale dans la journée. Je n'ai pas le temps de développer ici. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus, une vidéo là-dessus. C'est de passer du temps dans sa chambre dans la journée sans s'occuper de lui. On se met à terre, il joue, on est à côté. Du coup, il est détendu, il ne sécrète pas de cortisol, il est tranquille. Et le soir, quand on va le coucher, on lui dit pas on va aller au lit, on refait la même chose, on se met cette fois-ci dans une pénombre, on se met à terre, on peut utiliser un matelas à terre de type Montessori, c'est très bien.
J'allais vous demander, il y en a qui n'ont plus de lit aujourd'hui,
mais c'est
des
très
enfants,
bien,
est-ce
c'est très bien
ce
genre le de matelas.
Le lit à barreaux, c'est pas bon?
Ah, le lit à barreaux, on peut commencer à s'en exempter assez tôt, finalement, c'est pas mal comme technique.
Ben, du coup, un an, par exemple, dès qu'il marche?
Oui, même avant, même avant le lit à barreaux, on peut prendre un matelas à terre, même chez un nouveau-né, pourquoi pas. C'est toute une théorie, ça marche bien, on sécurise un peu la chambre, c'est pas mal du tout. Et du coup, l'enfant s'endort, il ne sécrète pas de cortisol, il sent que le papa ou la maman sont à côté. Comme on a pris l'habitude de ne pas s'occuper constamment de lui, on prend une petite veilleuse, on lit un bouquin, il va s'endormir, il va fabriquer la mélatonine, il va bloquer son cortisol et il va rentrer apaisé dans le sommeil.
Ah, pas mal. Mais on s'endort avant les bébés, nous, parfois aussi, parce que ça a l'air
bébés,
tellement
voilà.
apaisant ce que vous décrivez.
Bien,
je risque de m'endormir par terre à côté du lit, moi.
Voilà, bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à midi et demi.
Matin week-end, Thierry Dagiral.
6h17, l'Info Express, les Nick Monnier.
Et les députés qui ont adopté sans surprise le projet de loi controversé qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture. Les débats vont se poursuivre dans quelques heures au Sénat. En attendant, aujourd'hui, pour pratiquement 700 millions de personnes, 700 millions de Français, le pass sanitaire sera désactivé. Près de 14 500 classes fermées en France, c'est un record. La semaine dernière, pour cause de Covid, on en était à 9 000. C'est le plus haut niveau depuis le printemps 2020. Et puis 330 000 personnes supplémentaires ont été testées positives ces dernières 24 heures. En réanimation, en revanche, chiffre positif puisqu'il baisse pour la deuxième journée d'affilée. Retour à la case rétention pour Novak Djokovic. Son visa a été annulé cette nuit pour la deuxième fois consécutive par le gouvernement australien. On ne sait pas s'il pourra débuter l'Open d'Australie lundi, mais il sera un grand Open avec ou sans lui. Ce tacle est signé Raphaël Nadal il y a quelques instants en conférence de presse. Et puis on a appris hier soir la mort de Jean-Jacques Benex à 75 ans. Parmi ses films, Roselyne et les Lions, Diva et bien sûr 37 2 le matin, film culte qui révéla Béatrice Dalle dans le rôle d'une Betty brûlante.
Merci Lénaïque,
à tout à l'heure.
Dans un instant, on parle des soldes. Samedi important, vous le savez, pour les petits commerçants parce que depuis mercredi, c'est assez mou. Agnès Crozet de l'Observatoire Société et Consommation est avec nous dans un instant. C'est votre matinale week-end. On parle de vous. À tout de suite.
Europe.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Un petit tour au marché de Marseille et nous allons nous réchauffer avec les cuissons en croûte. Croûte de sel, d'argile, de pain. À quoi servent les cuissons en croûte? Qu'apportent-elles de plus à un ingrédient? On va étudier la question avec le chef Éric Trochon. Et nous allons déclarer notre flamme au topinambour avec Michel Jonas. Le chanteur est aussi un fin cuisinier. Et vous l'entendrez, il l'a même chanté le topinambour.
La table des bons vivants.
A tout à l'heure, 11h sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Tous les samedis matins à cette heure-ci, la question qu'on on va parler des soldes, bien sûr, premier gros week-end. On souhaite plein de courage aux commerçants qui nous écoutent. Bonjour Agnès Crozet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de l'Observatoire Société et Consommation. Les soldes ont commencé mercredi, donc 3 jours pleins. Visiblement, il y a peu de monde dans les commerces, hein.
Oui, effectivement, on note un début un peu poussif des soldes, certainement en lien avec la crise sanitaire, mais peut-être aussi parce qu'on constate depuis plusieurs années une forme de désintérêt à l'égard de cette grande messe que sont les soldes d'été ou les soldes d'hiver.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est plus un grand rendez-vous comme c'était avant, un grand rendez-vous de la consommation, on va dire.
Voilà, c'est moins un grand rendez-vous dans la mesure où, au final, notre année est rythmée par des promotions commerciales qui sont assez fréquentes maintenant. On avait le Black Friday, par exemple, en novembre. Ouais. On a eu les ventes privées là, juste après Noël et puis maintenant les soldes. Donc, effectivement, les consommateurs sont de plus en plus habitués à acheter en promotion.
On va revenir largement là-dessus tout à l'heure. Est-ce que pour la partie explication, est-ce que pour les grandes agglomérations, en tout cas, cela peut s'expliquer aussi par le télétravail finalement. Les gens d'abord consomment moins, ont moins besoin de s'habiller et puis restent chez eux, ne vont pas forcément faire les magasins.
Oui, effectivement, il y a aussi ça, donc, ce qui est aussi en lien avec la crise sanitaire, au-delà de la peur du virus. Les gens ont moins de mobilité, comme vous le disiez, et notamment dans les grandes villes où le télétravail est un peu plus fréquent que sur d'autres territoires. Et donc, comme on est chez nous, on a moins de potentiel à aller dans les magasins. Ouais.
Ces soldes, elles vont durer donc un mois jusqu'au 8 février. Il y a aussi l'inflation qui est là, on le sait, les carburants plus chers, les énergies. Est-ce que du coup, finalement, on dépense moins ailleurs, on met moins dans l'habillement, par exemple, ou dans la décoration dans la maison?
Oui, alors le secteur de l'habillement traverse une crise depuis plusieurs années déjà. Et effectivement, cette année, avec la hausse des prix de l'énergie, les craintes sur le pouvoir d'achat et les incertitudes aussi liées à la crise économique, liée à la crise sanitaire, font que les ménages sont aussi plus prudents et ont peut-être moins le cœur à faire des dépenses un peu sur un coup de tête.
Agnès Crozet, je pense aux petites boutiques, aux indépendants. Selon la Fédération nationale de l'habillement, 8 indépendants sur 10 se disent inquiets par la pérennité de leur activité commerciale en 2022. C'est assez fou, assez inquiétant finalement.
Oui, puisque effectivement, les commerçants indépendants sont beaucoup plus durement touchés. En tout cas, frontalement, ils ont moins les moyens, si vous voulez. Ils ont un peu moins de résilience que les grandes marques et que les grandes enseignes. Effectivement, cette baisse d'activité qu'on observe sur les secteurs de la mode et de l'habillement les touche en priorité.
Agnès Crozet, ce matin, secrétaire générale de l'Observatoire Société et Consommation avec nous. Est-ce que ce sont les ventes en ligne qui vont progresser? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne va plus en magasin et puis la veille, on va sur les sites, on commande directement et on n'a plus à se déplacer en magasin?
Oui, alors notamment en lien avec le télétravail et le fait que beaucoup de gens restent chez eux, mais on a vu le e-commerce augmenter fortement à la faveur de la pandémie. C'était déjà le cas un petit peu avant, mais les gens se sont pris des nouvelles habitudes pendant que les commerçants physiques étaient fermés, notamment pendant le premier confinement. Ils ont pris des habitudes d'acheter en ligne et ces habitudes, même si maintenant les commerces ne sont plus fermés, sont restées. Et puis, effectivement, on a un certain nombre de consommateurs se disent qu'on a aussi plus de choix, plus de capacité à comparer les produits et les promotions, qu'on a moins cette possibilité en magasin.
La question de fond, vous en parliez bien sûr tout à l'heure, est-ce que ces soldes servent encore à quelque chose? Vous le disiez, on a les Black Friday, les ventes privées, il n'y a plus d'effet solde, on a le sentiment que c'est finalement rabais permanent, quoi.
Voilà, c'est une surenchère promotionnelle qui a lieu un peu tout au long de l'année, qui fait qu'il y a un doute aussi qui s'instille sur la réalité des promotions, ou en tout cas de l'intérêt des promotions qui sont proposées. Puisqu'au final, quand on prend l'habitude d'acheter toujours à prix barré, on peut se questionner sur la réalité du prix proposé quand on n'est pas barré.
Est-ce qu'on paye en effet réellement le vrai prix? Est-ce que vraiment ces remises sont vraiment des remises? Est-ce qu'on gonfle avant finalement les prix pour avoir des remises? Enfin, c'est-à-dire qu'on a plus, on ne sait plus quelle est la vérité finalement.
Voilà, exactement. Il y a un rapport au prix qui est un peu distendu. Les consommateurs ont beaucoup de mal à se repérer et à comprendre ce qui est un prix juste, et aussi à justifier du coup des écarts de prix et la façon dont les prix sont fixés. Ouais. Donc ça alimente aussi une forme de défiance et un cercle un peu vicieux qui n'est pas vraiment en faveur des commerçants.
Bon, en tout cas, c'est un samedi important pour les commerçants, on l'a dit. Vous l'avez constaté, vous, avec tout de suite des remises assez importantes, hein, 40-50%, ce qu'on voit généralement, ce qu'on voyait dans le temps, en tout cas au bout de 3 semaines.
Oui, c'est ça. Avant, il fallait attendre plutôt la deuxième période des soldes pour pouvoir bénéficier de remises de ce niveau-là. Et effectivement, en lien justement avec le fait que les produits sont quasiment toujours vendus en promotion toute l'année, eh bien, cette surenchère créer des promotions très fortes dès le début de la période de solde, ce qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années.
Agnès Creuset de l'Observatoire Société et Consommation ce matin sur Europe 1. Merci à vous, madame.
Merci, monsieur. Bonne journée à tous.
Bonne journée.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Et un nouveau journal dans 5 minutes maintenant. On va parler notamment du nouveau vaccin Novavax. Mais tout de suite, Ed Sheeran sur Europe 1. Bon réveil.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
6h30, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Soyez les bienvenus. L'information de ce samedi matin, Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Un vaccin de plus pour lutter contre le Covid en France. Son nom, Novavax. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier.
Marine Le Pen à la rencontre des pêcheurs et des agriculteurs bretons. La candidate du Rassemblement National en a profité hier pour tacler l'éolien. On en parle dans ce journal.
Novak Djokovic pourra-t-il défendre son titre à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a été renvoyé cette nuit en rétention administrative à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par les autorités. Les précisions à la fin de ce journal de notre correspondante Marion Tessen.
Au sommaire de cette prochaine demi-heure à 6h40, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Benchemann avec l'humoriste Stéphane Guillon qui remonte sur scène. Puis à 7h10, nous ferons une escale dans la ville de Molière-Pézenas. C'est dans l'Hérault à l'occasion des 400 ans de sa naissance aujourd'hui. Et puis nous dégusterons une raclette en Savoie. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Des brouillards nombreux sur la moitié nord et le sud-ouest, des gelées fréquentes et fortes dans l'est et le sud, une douceur printanière dans l'après-midi en PACA et en Corse, maximale entre -8 à Montluçon et 3 degrés à Nice ce matin, il fait froid.
Le détail météo dans 7 minutes. Un cinquième vaccin anti-Covid qui débarque sur le marché français.
La Haute Autorité de Santé l'a approuvé hier. Il n'utilise pas l'ARN ni la technologie à vecteur viral d'AstraZeneca ou Janssen. Un nouveau vaccin devrait permettre de lever les doutes de certains sceptiques hostiles à l'ARN messager. Yasmine Katou.
Le vaccin de Novavax utilise la même technique que celle des vaccins contre la méningite ou la coqueluche. Une partie du virus du Covid, la protéine S, fabriquée en laboratoire, est injectée pour déclencher une réponse immunitaire. Une technologie connue qui pourrait rassurer les réfractaires, dit Elisabeth Bouvet de la Haute Autorité de Santé.
Il y a un certain nombre de gens, si vous voulez, qui disent ne pas se faire vacciner parce qu'ils ne veulent pas recevoir un vaccin ARN. Donc il est possible que parmi eux, une cible assez limitée, hein, j'en conviens, qu'ils souhaitent être vacciné avec un vaccin reposant sur une technologie plus classique, hein, qui est celle qu'on utilise habituellement pour faire les vaccins.
Le sérum sera réservé aux personnes majeures pour des primo-vaccinations pour l'instant. Il nécessitera 2 doses à intervalles de 3 à 4 semaines. Les premières injections pourraient avoir lieu début février en France, dit le ministère de la Santé. Plus d'1 million de vaccins doivent être livrés le mois prochain. Au total, 3,2 millions de doses sont attendues au premier trimestre.
Et puis, sans surprise, le projet de loi du pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture cette nuit à l'Assemblée nationale. Le texte doit maintenant être discuté au Sénat. Le dernier mot reviendra aux députés demain soir. Le pass vaccinal devrait entrer en vigueur la semaine prochaine.
Et puis dans les écoles, le variant Omicron perturbe le bon déroulement de la vie scolaire.
Du jamais vu, hein. Depuis le printemps dernier, plus de 14 000 classes ont dû fermer cette semaine en raison de cas de Covid. Et puis le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur en Loire-Atlantique. Il s'agit de la troisième annulation de ce type d'arrêté par la justice après Paris et les Yvelines.
La campagne présidentielle à présent. Marine Le Pen a fait une escale hier en Bretagne. Objectif, présenter son programme sur l'énergie.
Miser sur le nucléaire et non sur l'éolien. La candidate du Rassemblement national souhaite supprimer les aides aux énergies renouvelables. Elle a également voulu s'adresser à son électorat de pêcheurs et d'agriculteurs, mais a reçu un accueil en demi-teinte, Sandrine Prioul.
La baie de Saint-Brieuc est devenue le symbole du combat contre l'éolien. Eh bien, la candidate est sur le port et devant les détracteurs du projet. Marine Le Pen enterre ce chantier qui bat de l'aile.
Vous avez fait quoi comme action ?
J'ai juste été avec mon bateau pour lui dire d'arrêter, quoi, parce qu'ils sont en train de nous tuer.
Non, mais merci de résister. Sachez que je prends l'engagement solennel devant vous, si je suis le président de la République, qu'un de mes premiers actes soit arrêter précisément ce parc.
Quelques centaines de mètres plus loin, ce sont une poignée d'agriculteurs qui s'invitent dans le circuit de Marine Le Pen.
Donc, il va falloir changer fondamentalement la manière dont on aborde, encore une fois, ce sujet de l'agriculture.
Qu'est-ce que vous pensez des associations animalistes aussi, qu'ils n'arrêtent pas de nous saigner? Et nous, on se retrouve dans la merde avec ça, c'est ils n'arrêtent pas de faire le buzz chez nous.
Même topo, la candidate connaît ses dossiers, prend le temps d'écouter les doléances avant de parler Brexit à Saint-Malo avec Pascal Leclerc du comité des pêches.
Avec l'Europe, on a du mal. Donc, faut se recentrer sur le national. Et aujourd'hui, on peut dire que Mme Le Pen a bien reçu le message.
Pourtant, la dernière séquence prévoyait de saluer les pêcheurs. Si et là, de retour de mer, ils se sont bien gardés de venir voir la candidate du Rassemblement national, qui est repartie plus tôt que prévu. Saint-Malo, Sandrine Prioul, Europe 1.
Éric Zemmour, lui, avait choisi les Hauts-de-France. Le candidat à la présidentielle a tenu un meeting hier à Saint-Quentin. Il en a profité pour développer son programme sur l'éducation. Il promet un retour aux fondamentaux, à la méritocratie et à l'ordre.
Et puis à gauche, c'est le grand jour pour Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux doit mettre fin au suspense sur sa candidature à l'élection présidentielle.
Elle doit prendre la parole ce matin à 11h lors d'un rassemblement pour l'Union de la gauche à Lyon. C'est également aujourd'hui que la liste finale des candidats à la primaire populaire sera dévoilée.
On passe à présent au sport. L'équipe de France de handball veut confirmer son bon résultat lors de la première journée de l'Euro.
Les hommes de Guillaume Gilles affrontent à 18h l'Ukraine. Une victoire serait synonyme de qualification pour le tour principal de la compétition. L'expérimenté Ludovic Fabregas appelle à la prudence.
On a une équipe qui est en reconstruction d'une certaine manière, avec beaucoup de joueurs qui ont découvert les saveurs d'une première compétition internationale. Donc forcément, il y avait peut-être un peu d'appréhension, mais le match s'est très bien déroulé. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est certainement notre match référence, même si on n'en a pas joué beaucoup. Maintenant, gagner la Croatie et perdre face à l'Ukraine, ça remettrait tout en question. Forcément, on a toujours envie de respecter notre rival. À nous de rester vigilants et de se centrer sur nous et aussi continuer justement à grandir dans cette compétition.
Des propos recueillis par Axel May.
Et puis le feuilleton Novak Djokovic se poursuit en Australie.
Le numéro 1 mondial a été placé une nouvelle fois en rétention après l'annulation de son visa. Pour les autorités, le joueur non vacciné contre le Covid-19 constitue un danger public. À deux jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie, sa participation est de plus en plus incertaine. Marion Tessen.
Des atouts au fond d'or. Le pape, le jugement dernier ou le pendu, ces cartes apparaissent comme de précieux petits tableaux. Et même si elles ont parcouru les siècles de main en main, on se garderait bien de jouer avec.
Ah, visiblement, petite erreur. Revenons avec notre correspondante à Melbourne sur le feuilleton de la nuit, Novak Djokovic.
Oui, Novak Djokovic s'est entraîné pendant 4 jours seulement sur la Rod Laver Arena avant d'être replacé en rétention. Après son rendez-vous avec les services de l'immigration pour un nouvel interrogatoire, on l'a emmené. On vient d'apprendre qu'il est arrivé dans le même hôtel que la semaine dernière, dans le centre-ville de Melbourne, dans le quartier du Carlton. Et puis l'autre information, c'est qu'il peut communiquer avec ses avocats pour préparer l'audience capitale de demain matin. Elle aura lieu à 9h15 ici, 23h15 en France. Et puis sachez également que ce matin, matin, ses avocats ont demandé au juge que l'audience se déroule devant 3 juges différents, ce qui, en cas de victoire de l'appel, empêcherait le gouvernement de faire appel à son tour. En tout cas, le début du tournoi, c'est dans 2 jours. Pour l'instant, son nom est toujours affiché sur le tableau. Il est prévu lundi, mais sa participation pourrait être fortement compromise.
Et puis un mot de sport, de foot. Victoire de l'OGC Nice hier soir, 2-1 face à Nantes.
Voilà, c'était le journal de Clément Gouise. Merci Clément. La météo, Valérie Darmon, avec le ciel de nos régions, ça donne quoi ?
Bah, ça donne que le ciel défend de vrais certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. C'est Tartuffe qui dit ça. Vous savez pourquoi je le cite
Molière,
ce matin ?
Molière, 400 ans. À 7h10, on sera avec Jacques Weber d'ailleurs.
Eh bien voilà, eh bien, au nord de la Bretagne et des Pays de la Loire, à la Normandie, bassin parisien et Hauts-de-France, eh bien, on s'accommode sous les nuages bas et surtout les brouillards du matin, parfois givrants, qui vont tarder par endroits à se dissiper. Par conséquent, certaines régions vont rester davantage que d'autres dans la grisaille. On a aussi des brouillards fréquents au lever du jour du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne à Rhône-Alpes. Mais là, au fil des heures, vous profiterez de très très belles éclaircies avec une mention spéciale pour la montagne où la journée s'annonce idéale. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, on a des bancs de brouillard qui sont à nouveau présents dans les plaines du sud-ouest comme très souvent. Et puis le soleil qui va s'imposer facilement, quasiment sur tout l'ensemble du pays. Mais on a tout de même de la neige industrielle qui n'est pas à exclure.
C'est quoi la neige industrielle, attendez.
Eh bien, c'est de la neige de pollution. C'est une forme de neige qui tombe à proximité des sources de pollution, comme par exemple les zones industrielles ou les grands axes routiers. Ben, ce sera le cas par endroit en France. C'était le cas aussi hier matin. Et puis un mot tout de même de PACA et de la Corse. Je sais que vous aimez beaucoup la région PACA. Le soleil qui est radieux, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Le soleil qui est radieux du matin au soir. Et puis le froid qui laisse place à un temps beaucoup plus doux sur le sud, hein, beaucoup plus printanier.
Merci beaucoup Valérie, à tout à l'heure 7h. Notez qu'à 7h10, on partira en balade. On sera chez Molière, à Pézenas dans l'Hérault. Et puis on va déguster une raclette. Mais tout de suite à 6h38, la rencontre de Naïma Benchemann. Ce matin, l'humoriste Stéphane Guillon qui remonte sur scène.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
Bonjour Stéphane Guillon.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre, merci de m'accueillir au théâtre Tristan Bernard à Paris où vous allez, après une période de diète forcée, jouer votre dernier spectacle sobrement intitulé Stéphane Guillon sur scène. Un titre qui dit surtout combien être sur la scène d'un théâtre sonne pour vous comme une liberté retrouvée.
Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds.
Ça sonne comme le dernier espace de liberté. Pour moi, je ne développerai pas trop cette pensée, mais bon, voilà. J'entendrai des regards que vous croirez muets.
Les antivax, c'est compliqué. Les deux artistes qui les ont immédiatement soutenus, c'est Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Moi, j'ai su ça, le lendemain, j'étais vacciné. Non, je ne suis pas pour la théorie du complot, mais là, Lalanne et Bigard... Est-ce que pour qu'on soit pour le vaccin, Macron n'a pas demandé aux deux plus cons d'être contre ?
Au fil des années, votre regard cynique, votre humour noir n'auront pas été ébranlés. L'actualité, elle n'a de cesse de vous nourrir. La période de confinement, ça a été un peu du pain béni pour vous. Et vous nous expliquez dès le début de ce spectacle que ce temps de pause, loin d'avoir été salutaire à l'humanité, ne lui aura finalement pas appris grand-chose. En fait, si je comprends bien, plus ça va mal, plus vous bossez, vous, Stéphane Guillon.
Plus la société va mal, plus les humoristes travaillent. Et c'est un peu le fil rouge du spectacle. Je suis parti du principe que l'humanité a fait une pause de 18 mois et que prendre conscience de ses dérives, de ses erreurs et que maintenant on repart d'un bon pied.
Non, il y a eu des aspects positifs. Toutes ces choses qu'on ne faisait plus, classer sa bibliothèque, trier ses vieilles photos, refaire l'amour à sa femme, uniquement à sa femme. Tout ça parce qu'un gars s'est tapé un steak de pangolin sur un marché à Yuan, tu redécouvres ton épouse. Il aurait pris des nouilles sautées ou des nems aux crevettes. À quoi ça...
Vous l'avez compris, c'est un constat très ironique, puisque en vérité, comme disait l'autre, tout va de mal en pis.
She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven.
Nous sommes, je le rappelle, au théâtre Tristan Bernard. Vous, Stéphane Guillon, dont l'avant-dernier spectacle, Premiers adieux, a été jeté à la poubelle pour cause de Covid, est-ce que la scène reste pour l'humoriste que vous êtes le seul espace de liberté de parole sans que vous ne soyez censuré ou dans la liberté surveillée ?
She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud.
Mais je pense que si vous voulez, quand les gens viennent vous voir au théâtre, ils vous choisissent, c'est-à-dire que vous ne vous imposez pas à eux, ils font la démarche de venir dans cette salle. Et à contrario, quand vous êtes à la radio ou à la télévision, parfois vous arrivez dans le salon des gens sans qu'ils vous aient choisi. Donc, à moins que les gens soient totalement maso, je pense que les gens qui viennent me voir au théâtre sont des gens qui, a priori même, et ça me permet évidemment de les emmener beaucoup plus loin, parce qu'en 1h30, 1h40 de spectacle, on emmène les gens très loin. C'est salutaire, c'est le rire est salutaire.
C'est une histoire de famille, hein, les Le Pen, Jean-Marie, elle, sa nièce. Est-ce que depuis le temps qu'ils essaient, qu'ils en ont envie, on ne devrait pas leur filer un quinquennat? Un peu comme un César d'honneur. Après tout le mal qu'elle s'est donné pour lisser son image, ce serait bien qu'elle reparte avec un petit truc.
Le succès prendra son temps, il arrivera à Canal+, notamment, où vous incarnerez le renouveau d'un esprit quelque peu essoufflé, à la radio ensuite avec quelques déconvenues. Mais votre liberté de parole, toujours, vous l'avez défendue, vous l'avez payée au prix fort. Est-ce que, comme Michel Serrault le disait, le succès est une tragédie, Stéphane Guillon ?
Il disait ça parce qu'il avait joué 500 fois La Cage aux Folles. Le succès, non, le succès n'est pas une tragédie. Ce qui peut être une tragédie, c'est finalement de payer très très cher une liberté de ton. Moi, parfois, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis « waouh, quand même ». Je ne sais pas si je recommencerai tout ce que j'ai fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace, mais je trouve quand même que le prix à payer est très cher.
Oui, mais c'est ce qu'on aime chez vous. Ouais.
C'est ce qu'on aime chez moi, parlé. Mais si, c'est quand fait. Même, parfois, ça oui. m'ébranle. Je ne le dis pas, parce que même pas mal, comme on dit, mais parfois, je me dis que je l'ai payé quand même très, très, très cher.
Le rire est un exutoire et je ne comprends pas qu'on dise qu'il ne faut pas rire de ce qui fait mal. Ça fait moins mal quand on en rit. J'aurais tant aimé que cela soit de moi, mais c'est de l'un, exactement, l'un de vos mentors. Merci de toujours continuer à essayer de nous faire rire et merci de ce drôle d'endroit pour une rencontre, Stéphane Guillon, bien revivifiant pour moi.
Excellent film de Patrice Lecomte, drôle d'endroit pour une rencontre, non hein, c'est ça, je ne me gourre pas.
Ouais. Vous êtes le premier à me le faire remarquer.
C'est vrai. Ouais, mais c'est chouette. C'est un bon titre. J'adorais ce film. Quand ils se rencontrent sur une aire d'autoroute, Depardieu et Deneuve. Ouais.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Voilà pour la rencontre de Naïma Benchema, l'humoriste Stéphane Guillon, qui est au théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 9 avril.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
7h moins le quart, le fil info de ce samedi matin. Clément Guise.
Novak Djokovic pourra-t-il défendre son titre à l'Open d'Australie? Le numéro 1 mondial a été renvoyé cette nuit en rétention administrative à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par les autorités. Une audience en référé est prévue demain. Le tournoi débute ce lundi. Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal poursuit son parcours législatif. Il a été adopté cette nuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le texte doit être discuté discuter au Sénat dans les prochaines heures avant un vote de demain des députés. Le pass vaccinal devrait être opérationnel dès la semaine prochaine. Les hospitalisations en soins critiques sont en légère baisse pour le deuxième jour consécutif. Plus de 24 500 personnes sont actuellement prises en charge, dont 3 895 en réanimation. Puis victoire de l'OGC Nice hier soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Les Aiglons ont battu Nantes 2-1. Et puis un mot de la deuxième journée de la CAN. Le Maroc s'est qualifié pour les huitièmes de finale hier grâce à sa victoire 2-0 en match de poule face aux Comores.
Merci beaucoup Clément. Allez, dans deux minutes, on part en balade à Pézenas chez Molière dans l'Hérault. Vous le savez, on célèbre aujourd'hui les 400 ans de sa naissance. Et puis, rien à voir, on va se faire ensuite une raclette. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du samedi avec mes chouchoutes, Vanessa Zah, Marion Sauveur, vous allez bien?
Oui, très bien.
Bonjour à tous.
Vanessa, on commence avec vous. C'est l'occasion aujourd'hui, bien sûr, de parler de Molière, 400 ans de sa naissance. C'est aujourd'hui même samedi. On part sur ses traces à Pézenas.
Exactement.
C'est dans l'Hérault.
C'est dans l'Hérault. On n'est pas très loin de Béziers. Ouais, voilà. Ça. Et alors, donc, Pézenas va vivre tout le week-end sous le signe de Molière, avec, entre autres, une très belle affiche, un Francis Perrin.
Qui sera
d'ailleurs chez vous à 12h30.
Exactement, voilà. Dans Europe Midi.
Et qui sera aussi, surtout sur les plans de représentation à Pézenas et au Cap d'Agde ce week-end. Alors, pourquoi partir à la découverte de Molière à Pézenas? Comment il a atterri là-bas? Vous allez voir que c'est très important parce que ça va être un tournant de sa carrière. C'est pas pour rien que Marcel Pagnol disait « Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris ». Mais Molière est né à Pézenas.
Bon, ok, mais on peut avoir l'explication ou pas?
D'accord, allez, on rembobine. Alors, Molière fonde son illustre théâtre à Paris, vous le savez, c'est un échec. Ouais. Il est criblé de dettes. Son père règle ses dettes. Il s'en va, il part sur les routes de France, pas mal du côté, évidemment, du sud-ouest, en particulier aussi à Pézenas, là même où le prince de Conti s'est mis au vert après l'échec de la Fronde contre Louis XIV. Et dans cette maison, la Grange des Prés, dans sa maison, eh bien, le prince de Conti, pour occuper sa maîtresse qui s'ennuie un petit peu, donne des représentations avec une troupe, la troupe de Cormier. Mais évidemment, Molière passe par là, il va prendre le dessus grâce à son talent, évidemment, mais grâce aussi à un petit coup de pouce. C'est Philippe Charleux qui va nous raconter cette histoire. Il est résident à l'hôtel d'Alphonse à Pézenas.
Le secrétaire Connac et le poète Sarrazin, qui étaient proches du prince de Conti, donc qui travaillaient pour lui, ont succombé un peu au charme d'une des comédiennes de la troupe de Molière et ils ont tout fait, évidemment, pour favoriser Molière et faire que le prince l'accepte comme troupe de théâtre.
Et voilà, et c'est comme ça, en fait, qu'ils deviennent la troupe officielle du prince de Conti. Donc, un vrai statut, ce qui va lui permettre, en fait, de repousser les portes après quand il va remonter à Versailles, à Paris.
On apprend des choses le matin, ça c'est bien. Cette Grange des Prés où étaient jouées les représentations, on peut la visiter encore aujourd'hui ou pas?
Alors, oui. Alors, il faut s'adresser à l'Office du tourisme, parce qu'il le monte, en fait, des visites guidées en itinérance. Donc, évidemment, dans cette Grange des Prés, mais aussi à l'hôtel donc, d'Alphonse, qui a une superbe loggia Renaissance. C'est magique, je mettrai des photos, justement, sur notre Facebook. Et c'est là où Molière a joué sa farce, le médecin volant, devant le prince donc de Conti, mais aussi devant les délégués de la province, parce que trois mois de l'année... Eh ben, il y avait une session des États du Languedoc. Autre lieu, l'hôtellerie du Bas d'Argent, où Molière a été hébergé. Et puis, un dernier lieu un peu plus insolite, mais qui va être central pour la création de Molière.
La boutique du barbier Gély, là où Molière venait, il s'asseyait sur un fauteuil et puis il était là à l'écoute de ce que se disaient les gens du peuple. Voilà, il observait un peu les personnages, les attitudes, ce qui se disait, comment ça fonctionnait.
Et alors ce fameux fauteuil, vous pouvez aller le voir au musée du Vulliau.
Parfait, des adresses alors.
Allez, une adresse en particulier, les galeries de Bollac, du caractère 4 chambres et une suite dans un ancien couvent d'Ursuline. Du XVIIe siècle, en plein centre-ville, c'est magnifique. Il y a des hôtels particuliers
tout
autour.
Ça, c'est chouette. Molière qui s'invite dans cette matinale week-end ce matin. Marion, avec vous, on va partir dans les Alpes.
Et oui, les températures se rafraîchissent. Alors, j'avais envie d'un petit plat qui me réchauffe aujourd'hui.
M'étonne pas de vous.
Forcément, j'ai pensé à un fromage, pas n'importe quel fromage. Je sais qu'il est tôt.
Oui.
C'est un fromage savoyard qui est roi en hiver. C'est la raclette. Regardez cette belle raclette de Savoie.
Oh, dites donc.
Elle s'identifie facilement grâce à son indication géographique
mange
protégée.
Ça à 6h55.
Et je vous ai apporté une belle meule de 6 kilos.
Avec une
allez, croquez dans cette raclette de Savoie. Vous allez voir. Ça se déguste comme un fromage. Sur le plateau, sans problème.
Bon.
Jolie petite croûte beige à l'intérieur d'une pâte jaune clair. Mais oui, ça vaut le coup de la mettre, cette raclette, sur votre plateau si vous hésitez. Alors, pour la réaliser, il faut du bon lait. Ouais. Ils sont 700 éleveurs de vaches de race locale en Savoie et en Haute-Savoie à produire le lait pour fabriquer cette raclette de Savoie.
Heureusement
comme
qu'on a nos
Thomas
masques en ce moment.
Dantin.
Enfin, pas sur les doigts, les masques.
Et il est producteur de lait à Mérieux-Troué. Et un bon lait, ça passe par de la bonne nourriture donnée aussi aux troupeaux.
Un lait déjà de qualité fromagère irréprochable, puisque notre raclette est faite au lait cru. Donc, il faut soigner nos animaux avec des produits qui sont issus de la ferme, autant les fourrages que les céréales. Et puis après, nous apportons aussi des matières protéiques, des tourteaux de colza ou de soja. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont apportés de manière locale et sans OGM. C'est ce qui fait derrière la qualité de notre lait et par la suite la qualité de nos fromages.
Parfait Marion, on va passer aux choses sérieuses. Est-ce que vous avez des conseils pour varier les plaisirs de la raclette?
Oui, parce que la raclette de Savoie, elle est nature. Alors pour changer de la raclette classique, on peut penser aux épices par exemple, des baies roses, des poivres, des herbes fraîches, les légumes pour changer de la charcuterie, ou même du poisson, pourquoi pas, du saumon fumé avec de la nette. Essayez avec le fromage, ça fonctionne.
On a prévu trop large, il nous reste un peu de raclette. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recette?
Eh bien, vous conservez votre raclette en bas du frigo, ça c'est le plus important. Elle se conserve jusqu'à 3 semaines dans son papier d'origine.
Ah oui.
Et pour changer de la raclette classique, vous gardez vos pommes de terre, votre raclette, votre charcuterie, et vous faites un sandwich pommes de terre raclette. Mmh. Vous faites cuire les pommes de terre d'un côté, on ajoute la raclette par-dessus qu'on fait griller au four, et on ajoute au dernier moment le jambon et on croque de.
Après, vous allez faire 20 km en jogging.
Mais c'est délicieux, la raclette. Oui, j'ai froid, il faut se réchauffer.
Ben oui. Allez, merci beaucoup, Marion. Votre recette, bien sûr, sur Europe1.fr. Merci à vous deux, Vanessa et Marion. À demain.
À demain.
Merci à vous d'écouter Europe 1. Bon réveil à vous. Il est bientôt 7h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le journal vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Entre 500 et 700 000 Français privés de passe sanitaire aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont réfractaires ou retardataires? La réponse dans ce journal.
Le taux du livret A à la hausse depuis 10 ans et nos conseils ce matin sur Europe 1 pour d'autres bonnes idées de placement.
Et puis les sports, PSG Brest ce soir en Ligue 1, même sans Neymar ni Messi, c'est quasiment une formalité pour Paris.
Dans la prochaine demi-heure, Jacques Weber viendra nous parler de sa passion pour Molière à 7h12 précisément. Et puis Mathieu Alterman nous dira qu'il vaut mieux voir du Molière sur scène qu'au cinéma. Rendez-vous vers 7h20. Mais tout de suite, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Un plein soleil sur tout le pays avec une exception entre Brest, Caen et Royan. On ne parle pas de plein soleil mais juste de très belles éclaircies avant l'arrivée de pluies très faibles sur la pointe bretonne en toute fin de journée.
Le détail météo bien sûr dans 7 minutes. Votre passe sanitaire risque-t-il d'être désactivé dès aujourd'hui, ce 15 janvier, et la date limite fixée par le gouvernement?
Et ça concerne tous ceux qui, 7 mois après leur dernière injection, n'ont toujours pas reçu la 3e dose de vaccin et ne peuvent pas non plus justifier d'une infection récente au Covid. En gros, ça fait quand même pas mal de monde, pas loin de 700 000 Français, au profil très disparate, détaillé par Zoé Pallier.
Sabrina avait pourtant bien noté la date du 15 janvier, décidée à obtenir sa 3e dose, mais elle a finalement laissé les semaines filer jusqu'à oublier l'échéance.
Lorsque j'ai voulu trouver un créneau, c'était impossible sur Doctolib, donc j'ai mis ce projet sur pause, pensant qu'on avait un petit peu de temps. Et puis ces derniers jours, j'ai eu confirmation qu'il fallait se dépêcher. J'ai reçu une notification disant que mon pass allait être invalidé le 15 janvier.
Résultat, Sabrina s'est dépêchée de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Son pass ne sera donc désactivé que quelques jours. Ce sera plus long pour Vincent. Cet étudiant ne compte pas du tout recevoir sa 3e dose.
Je ne comprends pas l'intérêt de généraliser la 3e dose. J'ai eu mes 2 doses parmi les premiers, donc c'est au mois d'avril. On pensait que le vaccin empêchait pratiquement totalement la transmission, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un problème de perdre mon pass sanitaire. Je me passerai de restaurant et de cinéma et ce n'est pas très grave.
Et désormais, la nouvelle date butoir est fixée au 15 février. Pour conserver son pass sanitaire, il faudra avoir reçu sa 3e dose au plus tard 4 mois après la dernière injection.
Et voilà qui pourrait peut-être convaincre les plus réticents. Un 5e vaccin débarque sur le marché français, c'est le Novavax. autorisé hier par la Haute Autorité de Santé. C'est un vaccin à l'ancienne, sans la technique d'ARN messager.
Les naïcs, la politique à présent, le torchon brûle-t-il entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ?
Eh bien, l'alliance entre le chef de l'État et son ex-premier ministre prend l'eau, nous disent nos confrères du Monde. Selon le journal Horizon, le mouvement se retire de la maison commune. Une décision qui a été prise après l'opposition exprimée par Emmanuel Macron de voir ce parti fusionner avec Agir, qui est lui le parti de Franck Riester.
Et puis Valérie Pécresse, elle est en Grèce jusqu'à demain matin, un déplacement sur le thème de l'immigration.
Oui, aujourd'hui, elle va visiter un centre de contrôle des migrants sur l'île de Samos. Alexandre Chauveau, Valérie Pécresse veut imposer à nouveau ses thèmes dans la campagne, largement occupée jusqu'à présent par le Covid.
Oui, tout faire pour parler d'autre chose que de la crise sanitaire. Voilà l'enjeu pour Valérie Pécresse qui effectue son deuxième voyage à l'étranger dans cette campagne après l'Arménie. La candidate a déjeuné hier avec le Premier ministre en compagnie d'Éric Ciotti et de Michel Barnier. L'occasion pour elle de vanter la politique migratoire de la Grèce et d'appeler la France à s'en inspirer.
Ce qu'a fait la Grèce en matière de frontières est totalement exemplaire. Et je crois que c'est ce mélange de fermeté et d'humanité qu'il faut que nous mettions en œuvre dans tout les pays frontaliers de l'Union européenne.
Grâce à des centres d'hébergement financés par l'Europe, l'accueil des migrants se décide désormais depuis la frontière et a fait diminuer le nombre d'entrées de 80 000 à 10 000 clandestins en quelques années. Un modèle à suivre pour Valérie Pécresse qui souhaite créer une alliance des pays situés aux frontières extérieures de l'Union. La candidate ne veut, je cite, ni d'une Europe forteresse, ni d'une Europe supermarché. Quand on veut entrer chez quelqu'un, on frappe à la porte et on demande la permission, dit-elle. Manière d'illustrer sa fermeté sur la question et de ne rien céder politiquement à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, week-end chargé justement pour les candidats puisqu'Éric Zemmour poursuit sa tournée à Château-Thierry. Marine Le Pen, qui était en Bretagne, diffuse un clip qu'elle a tourné au Louvre. Quant à Christiane Taubira, c'est à Lyon qu'elle se lance officiellement dans la campagne aujourd'hui.
C'est l'un des placements préférés des Français, le Livret A. Il va rapporter un peu plus,
oui, augmentation de sa rémunération au 1er février de 0,5 à 1%. Ça s'explique par le résultat de l'inflation qui bondit en ce moment, mais ça ne représente que quelques euros de plus pour vous, épargnants. On peut donc trouver mieux. Écoutez les conseils de Maxime Chipoy, il est président de Moneyvox.
Première chose qui est rentable, et beaucoup de Français ne le savent pas, c'est le livret d'épargne populaire, qui est une sorte de livret A, mais qui a été créé pour aider les classes populaires, entre guillemets, à épargner. Et lui, il est totalement indexé sur l'inflation. Il va passer à 2,2% à partir du 1er février, pour une inflation à 2,8% dernièrement. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant que le livret A. Par contre, il y a une contrainte qui est qu'il ne faut pas payer d'impôts ou alors très peu d'impôts. Après, pour le reste, pour aller chercher un peu de rendement, il faut plutôt se diriger vers des placements un peu plus risqués, l'assurance vie principalement, ou sur lequel vous avez encore des fonds euros qui peuvent, pour certains, quand on regarde bien, rapporter entre 1,5 et 2%. Et puis après, malheureusement, il faut aller plutôt sur des placements plus risqués qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la bourse et donc avec des incertitudes sur les résultats finaux.
Des placements boursiers, de la crypto-monnaie même, hein, c'est assez tendance en ce moment, en tout cas c'est varié. Maxime Chipoy, présidente de Moneyvox, répondait à Emmanuel Duteil.
Le sport à présent avec l'incertitude qui plane toujours sur la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie.
Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison débute lundi, mais les autorités australiennes viennent de supprimer au numéro 1 mondial une deuxième fois son visa. Le voici donc de nouveau à son hôtel de rétention.
Et puis PSG-Brest, c'est du foot et c'est bien sûr l'affiche de la soirée.
C'est la 21e journée, match qui semble pour le moins déséquilibré sur le papier, même si côté parisien, il y a beaucoup d'absents. Messi, pour ne citer que lui, Cyril de la Morinerie, même sans ses stars, Paris va jouer sans pression ce soir.
Oui, même privé de Lionel Messi et Neymar, le club parisien veut monter en puissance avant son match de Ligue des Champions contre le Real Madrid et se rassurer. Le dernier nul arraché contre Lyon dimanche dernier a montré que Paris était encore sur courant alternatif. Les Parisiens ont du mal à se trouver, à créer du jeu. Paris reste sur 4 nuls, une défaite et 5 victoires lors de ses 10 dernières rencontres et espère maintenant enclencher une nouvelle dynamique. Malgré les cas de Covid, les absents, l'ambiance au sein de l'équipe est excellente. De bon augure pour ce match face à Brest, veut croire l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Oui, c'est une bonne opportunité pour commencer l'année de la bonne façon. Je suis content de la forme dans laquelle sont revenus les joueurs, de l'implication qu'ils ont. Ça se passe de mieux en mieux, donc nous pouvons espérer de bons résultats et démarrer du bon pied au Parc des Princes.
De toute façon, Paris n'a pas la pression. Le club parisien, leader incontesté de la Ligue 1, a toujours bien réussi face à Brest au Parc des Princes. À domicile, le PSG reste sur 20 matchs sans défaite face aux Brestois.
Cyril Delamorinerie, coup d'envoi du match à 20h45. À suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1.
Merci beaucoup Lénaïque Monnier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À présent, on regarde le ciel avec vous Valérie Darmon. Il fait froid, il y a du brouillard. Attention, des brouillards et des gelées à Angers notamment, c'est ce que nous dit Antoine. Il gèle ce matin, Valérie.
Effectivement, et pour regarder le match, il vaudra mieux se couvrir. Alors, on a déjà des températures très contrastées ce matin. Moins 11 à Brive-la-Gaillarde pour les minimales. Mmh. Au même moment, 3 degrés à Nice et Ajaccio. C'est bas de toute façon. Moins 6 au Puy-en-Velay, à Cahors et Clermont-Ferrand. Moins 5 à Manosque, à Charleville-Mézières, à Grenoble, à Châteauroux et Besançon. Moins 4 à Toulouse, Bordeaux et Tours. Moins 3 à Périgueux, Évreux et Chartres. Moins 2 à La Rochelle, à Nantes et Rouen. Moins 1 à Marseille, à Rennes et à Lille. 0 à Paris et à Saint-Brieuc. Et cet après-midi, c'est maximal qui vont grimper entre 2 à Lons-le-Saunier et 13 degrés à Marseille. C'est évidemment bas pour la saison, mais on est relativement dans les normales, plus ou moins en dessous. Ouais. De 1 à 2 degrés en dessous, c'est pas grand-chose.
Du côté du ciel, Valérie ?
Très homogène, très dégagé, voire bleu, grâce à l'anticyclone qui se renforce encore. Le nord qui se départit enfin de cette grisaille basse, tenace, à couper au couteau. Reste évidemment ce matin, vous le disiez à l'instant Thierry, des brouillards givrants le long des frontières belges et allemandes, dans les forêts landaises, jusqu'en pays d'Agen et en Bretagne. Attention aux problèmes de visibilité, surtout aux chaussées glissantes par endroits. Tout cela va se dissiper plus ou moins. Et cet après-midi, les éclaircies vont dominer sur le nord-ouest et le ciel qui promet d'être parfait. Bleu, donc partout ailleurs.
Merci beaucoup Valérie, on se donne bien sûr rendez-vous à 7h30. À suivre, Molière s'invite dans la matinale week-end ce matin. Sa naissance était il y a pile 400 ans. Le comédien Jacques Weber nous rejoint dans un instant. C'est sur Europe 1, tout de suite 7h09.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview de 7h12, on rend hommage ce matin à Molière, naissance il y a pile aujourd'hui 400 ans. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
C'était important de vous avoir avec nous ce matin, merci à vous. Vous avez joué l'avare, vous avez joué le misanthrope, Don Juan, Tartuffe, les Faubourgs de Scapin. Vous avez raconté la vie de Molière dans le roman de Monsieur de Molière. Vous avez presque finalement tout fait finalement.
Oh, tout fait, non, ça serait pas possible. Mais disons que j'ai eu cette chance formidable de jouer les plus grands rôles, Orgon, Tartuffe, Don Juan, Alceste, Arnolphe, Harpagon, etc.
Et quel est le personnage
de... C'est surtout le fait que je les ai joués longtemps.
Longtemps.
Ça, c'est très très important. Ouais. Je les ai joués près de 200 fois chacun.
Ouais.
Et ça, c'est... On progresse toujours. Et c'est ça qui est la très belle beauté de notre métier, quoi. C'est quand on joue longtemps un personnage.
Et votre personnage, votre pièce préférée de Molière ?
C'est très compliqué à dire parce qu'il y a... Don Juan qui est un petit peu en marche presque et en même temps là une des clés de voûte de l'œuvre de Molière et en même temps en marche quant à sa structure, enfin quant à sa relation avec le monde.
Mmh.
Mais c'est vrai que Don Juan est très très frappant et de plus en plus pour moi. Mais je pense que là où on entend le mieux Molière, c'est dans la contradiction entre Philinte et Alceste qui reste un summum de la comédie dramatique, quoi, vraiment.
Qu'est-ce qui vous fascine chez Molière, Jacques Weber ? Vous disiez il y a quelques temps, il crée un désordre nécessaire.
Oui, moi je crois qu'il faut faire très attention d'abord à cette espèce d'idolâtrie que certains de mes amis et de mes camarades entretiennent autour du grand, du plus grand des plus grands, du Molière toujours notre contemporain. Quoi de neuf Molière ? Quoi de neuf Molière ? C'est archi faux. Molière appartient intrinsèquement au XVIIe, mais c'est en posant, en ne cessant de questionner son siècle, ses jours et... la société qu'il connaît, il ne connaît pas toute la société. C'est un auteur qui connaît la bourgeoisie naissante et l'aristocratie déclinante. Il faut jamais oublier ça. Et j'invite tous les gens à lire la nouvelle biographie de Monsieur Forestier, qui renouvelle totalement le regard qu'on pouvait avoir sur Molière. Non, ce qui me fascine en effet, c'est que c'est un homme beaucoup plus rebelle qu'il n'y paraît à première lecture.
Ouais.
Tartuffe désordonne une famille, un peu à la manière du théorème de Pasolini, Alceste désordonne la classe dominante, et enfin Don Juan désordonne le monde. Et là, on a trois cycles que je trouve extrêmement importants. Et si vous voulez, il est le peintre, contrairement à Shakespeare, dont on pourrait dire qu'il est l'auteur cosmologique par excellence, ouais. Et qu'il ne cesse de dépeindre le désordre inhérent, originel, et le désordre tout court des sociétés, Molière lui dépeint l'ordre bourgeois. Et sur cet ordre, il dit bah, ce qui serait nécessaire, c'est quand même un peu de désordre pour remettre tout ça en question. Et non seulement il se sert de Don Juan, de Tartuffe, d'Alceste, mais également, par exemple, des femmes. Ouais. Et ça, c'est très important de bien dire que les femmes sont des femmes éprises de liberté, éprises de la reconnaissance de leurs désirs, et éprises aussi de re-questionner, je pense par exemple au formidable rôle de soubrette chez Molière, de re-questionner les familles dans lesquelles elle travaille. Quoi. Ça, c'est formidable.
On peut dire qu'il incarne l'esprit français persifleur, typiquement finalement gaulois, réfractaire.
Alors, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'il soit persifleur. Je pense au contraire que c'est une œuvre robuste, c'est une œuvre extrêmement humaine, profonde, rebelle, violente. Je pense que je le comparerais plutôt à l'esprit d'un Cazavetes, vous voyez que, ou même un Piala, dans la façon de préhender le réel. Non, le persiflage appartient à des gens d'ailleurs d'un talent merveilleux, on en a besoin aussi, mais je pense plutôt à Guitry, c'est le persiflage qui est beaucoup plus parisien que latin ou que français, quoi, voilà.
Jacques Weber, en même temps, il a un rapport au pouvoir assez ambigu parce que il est subversif, il critique la cour, il joue à Versailles, il a besoin de la cour en même temps.
C'est exactement ce qui est indiqué d'une façon extrêmement précise chez Forestier. On est loin de la légende qui a persisté pendant des siècles, mise en place par Grimaret, qui est la première biographie de Molière après de son vivant posthume. Je pense que ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, et ce qu'on retrouve à peu près dans toute l'histoire de la littérature, et c'est que oui, en effet, c'est un auteur précieux, c'est un auteur qui a du succès. C'est le fils d'un très riche bourgeois qui est tapissier du roi. Il n'y a pas de problème. Il gagne très bien sa vie. Il vit luxueusement. Il est on ne peut plus roublard et politique. Mais sans citer de nom, je vous citerai des immenses hommes de théâtre encore de vivants de nos jours, des immenses animateurs qui sont des formidables machines de guerre politique pour avoir les pouvoirs de pouvoir représenter ce qu'ils ont. Et en plus, nous le savons, et c'est bien ça l'un des problèmes de nos sociétés et des structures, des rapports avec un État, c'est qu'un État sait parfaitement qu'il lui faut entretenir, pour être crédible, une forme de subversion permanente aussi. Hein, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est née l'Académie française. Richelieu avait tout pigé. Voilà, c'était pour contrôler ses ennemis. Donc on est dans cette ambiguïté, mais cette ambiguïté n'a jamais empêcher des monstres de s'exprimer. Quoi.
Plusieurs voix, Jacques Weber, réclamaient l'entrée de Molière au Panthéon. L'Élysée a dit non, encore dernièrement, parce que ce sont seulement
les... Alors là, vraiment, écoutez, alors je sais que mon ami, et qui reste un ami et que j'aime de tout mon cœur, et je lui ai dit, donc je ne l'attaque pas derrière son dos, il est fou, c'est un fou que j'adore, que j'aime de tout mon cœur.
Vous parlez de qui ?
Mais je trouve bah, Francis Huster.
Francis Huster, c'est son combat depuis 2019. Mais dernièrement, il y a des politiques qui sont rentrés dans la danse aussi.
Inutile. Ah oui ? On se fout totalement que Molière soit au Panthéon. D'ailleurs, je me fous totalement du Panthéon. Moi, ce que j'ai envie, c'est que Molière soit revisité par des très grands metteurs en scène et des très grands acteurs dont il fait partie. Le français, je sais, va inviter des metteurs en scène magnifiques et va nous jouer la version que personne ne connaît du Tartuffe, qui est la première version de Tartuffe. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est intéressant. Le Panthéon, je m'en fous comme de ma première chemise, mais vraiment. Alors,
Jacques Weber, pour terminer, juste pour le plaisir, une courte tirade, une réplique d'une pièce de Molière que vous aimez particulièrement.
Non, il y en a une qui me touche de plus en plus dans l'écart que nous avons entre la nécessité urgente de se rebeller et d'agir et la nécessité de prendre notre temps, pour ne pas dire des conneries, pour repenser le monde. Il y a une phrase très camusienne, comme ça, de Philinte, il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus, des usages, heurte trop notre siècle et les communs usages. Il faut aux mortels, elles veulent aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. Voilà, ça, je trouve que c'est une réflexion qui est tout à fait intéressante et pertinente en ce moment.
Jacques Weber.
Il faut répondre.
Voilà. Jacques Weber, ce matin sur Europe 1. Dans cette matinale week-end où l'on rend hommage à Molière, on va continuer à le faire avec Mathieu Alterman et Nicolas Carreau. Merci à vous, Jacques Weber.
Je vous en prie.
Bon samedi.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
7h19, samedi 15 janvier, l'Info Express, Léna Hikmonier.
Et 330 000 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid ces dernières 24 heures. En revanche, en réanimation, le chiffre baisse pour la deuxième journée consécutive. On a également observé la fermeture de 14 500 classes. La semaine dernière, on était à 9 000. C'est le plus haut niveau depuis le printemps 2020. Pour quelques 700 000 Français, aujourd'hui, le pass sanitaire sera désactivé. Ça concerne tous ceux qui, 7 mois après leur dernière injection, n'ont toujours pas reçu la troisième dose de vaccin et qui ne peuvent pas non plus justifier d'une infection récente au Covid. En attendant, les députés ont adopté cette nuit en deuxième lecture et sans surprise le projet de loi qui transforme ce pass sanitaire en pass vaccinal. Les débats se poursuivront dans quelques heures au Sénat. C'est le retour à la case rétention pour Novak Djokovic. Son visa a été annulé cette nuit pour la deuxième fois par le gouvernement australien. On ne sait pas s'il débutera le premier tournoi du Grand Chelem de la saison lundi. Nice, deuxième de la Ligue 1, provisoirement après sa victoire contre Nantes. Hier soir, il y a eu 2-1. Devant, c'est toujours le PSG qui reçoit Brest à 20h45. Un match à suivre sur Europe 1 en direct et en intégralité. Et puis, vous venez d'entendre Jacques Weber en parler. Molière a 400 ans. Son théâtre est intemporel. Nous serons au cours Florent dans le journal de 7h30.
Merci Lénaïque. Dans un instant, l'œil de Mathieu Alterman. Mathieu qui vénère Molière sur scène, mais pas au cinéma. A tout de suite, c'est la matinale week-end sur Europe 1 et on parle de vous.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
L'œil aiguisé de Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour Thierry.
Vous êtes perfide Mathieu.
Ah, très.
Je vous dis, on parle de Molière ce matin et vous me dites oui, oui, bien sûr, ces pièces adaptées au cinéma ont été des bides.
Mais oui, alors que nous célébrons les 400 ans de la naissance du plus grand génie théâtral français,
oui,
un étrange constat s'impose. L'œuvre de Molière s'est épanouie dans un incalculable nombre de scènes à travers le monde, tout en accumulant les échecs dans les salles de cinéma. La faute à qui ? Une paralysie des réalisateurs devant la carrure du texte ? Un fantasme de comédien qui s'assouvit fort mal une fois concrétisé ? Passons en revue quelques exemples étonnants.
Allez-y.
Nous sommes en 1980. Louis de Funès, comique numéro un français, campe le rôle d'Harpagon, le célèbre estime avare de Molière. Il co-réalise le tournage, il s'investit artistiquement comme jamais auparavant. Lorsque le film sort, c'est une douche froide.
Ah ouais.
Le comique génial n'a jamais été aussi peu drôle. Le résultat est ampoulé, tourné par un hiver glacial et les spectateurs sortent des salles mortifiés. 2,4 millions d'entrées quand les producteurs en espéraient 6.
Ouais.
Louis de Funès rate son rêve de toujours. Il aurait peut-être fallu le concrétiser au théâtre où le contact avec le public bouleverse tous les ressorts de la comédie. Mais son cœur fragile le lui interdisait désormais. Quelques années plus tard, d'ailleurs, en 1986, Michel Serrault triomphera sur les planches dans le même rôle devant un public en délire, ébouriffé par sa flamboyance.
Mais ce qui est cocasse, Mathieu, c'est que l'échec de la plus grande star française de l'époque ne va pas stopper les projets. Et on compte bien d'autres catastrophes.
Ben oui, dès l'année suivante, en 1981, qui a vu les fourberies de Scapin réalisées par Roger Coggio ? Personne, en effet, la faute sans doute à un casting pour le moins hétéroclite. Coggio, alors 46 ans dans le rôle titre, quand Scapin est vu comme un héros juvénile.
Ouais.
Michel Galabru, encore traumatisé par son rôle dans Le De Funès de l'an passé. Maurice Riche, pris en sandwich entre le gendarme et les extraterrestres et le gendarme et les gendarmettes. Bref, que sont-ils allés faire dans cette galère ?
Ouais.
Une catastrophe, mais qui ne découragera pas le réalisateur, puisque l'année suivante, il est réunira un trio apparu dans Le Viager, à savoir Michel Galabru, Jean-Pierre Darras et Rosie Vart pour Le Bourgeois Gentilhomme.
Ah oui.
Oui, Bourgeois Gentilhomme qui sera également un flop au box-office. Rosie Vart reviendra en 1985 dans un autre film adapté de Molière, Monsieur de Pourceaugnac, ouais, qui enterrera définitivement sa carrière sur le grand écran avant un fulgurant comeback, somme toute assez éloigné de l'univers qui nous intéresse aujourd'hui.
On est assez loin de Molière là. Mais ces échecs ne trahissaient-ils pas simplement à cette époque un désamour du public pour les œuvres dites de patrimoine ?
Bah peut-être Thierry, mais lorsque Gérard Depardieu réalisait lui-même dans les années 80 son adaptation du Tartuffe pour des salles de cinéma à moitié vides, Michel Bouquet jouait les prolongations sur scène dans Le Malade Imaginaire. Jacques Weber triomphe au théâtre dans le rôle de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, mais personne ne se bouscule pour applaudir en salle son film adapté du Don Juan de Molière. Finalement, Molière, c'est comme la musique classique. Il faut que ce soit joué devant un public. Ses mots ne se déclament pas, ils vibrent. Et les échecs successifs de ses adaptations sur grand écran sont peut-être mérités. Molière est mort sur scène, il existait pour et par le public et donnait tout en direct sans avoir droit à l'erreur. Le constat est implacable. On aime Molière pour de vrai et sans caméra, car c'est du sans filet.
Et c'est vrai que Molière au théâtre, c'est toujours un grand moment. Merci Mathieu, à demain.
À demain.
Allez, dans deux minutes, le journal de Clément Gouiz. On va parler du pass sanitaire désactivé pour 700 000 Français. Ne quittez pas, on revient dans un instant.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook. Posez vos questions. Europe Matin Week-end, il est 7h30 et le journal vous est présenté par Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Votre passe sanitaire est peut-être en fin de vie aujourd'hui. Le gouvernement va en désactiver 700 000. On en parle en début de ce journal.
Éric Zemmour dans les Hauts-de-France. Le candidat à la présidentielle en a profité pour développer son programme sur l'éducation. Il promet un retour aux fondamentaux, à la méritocratie et à l'ordre.
Jean-Michel Aulas, sans filtre, le président de l'OL a accordé un entretien exclusif à Europe 1 Sport. Au menu, retour sur son parcours de dirigeant, les objectifs sportifs pour 2022. Et à la fin de ce journal, il nous parlera de Karim Benzema.
Au sommaire de votre prochaine demi-heure, à 7h40, Paris Match se penche sur le feuilleton Novak Djokovic. On s'attardera sur la photo polémique du numéro 1 mondial entouré de jeunes tennisman le lendemain de son test positif au Covid. Et puis à 8h moins le quart, Paris s'il est sorti, on parlera des livres de Molière à l'occasion de son 400e anniversaire. Et puis, on évoquera également les bons plans sortis de ce week-end. Mais d'abord, la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Beau, calme, passé les plaques de grisaille ici ou là dans le nord et dans le sud-ouest ce matin, rendant parfois les chaussées glissantes.
Prudence donc, détail météo dans 7 minutes. Votre passe sanitaire vit peut-être ces dernières heures sans dose de rappel. Certains seront désactivés dès aujourd'hui.
Au total, 700 000 personnes sont concernées. Alors concrètement, comment fonctionne cette désactivation? Y a-t-il des exceptions? Les explications de Céline Giraud.
Alors, vous avez entre 18 et 64 ans, votre dernière injection date d'avant le 15 juin et vous n'avez pas fait le rappel. Eh bien, votre passe sanitaire n'est plus valable à partir d'aujourd'hui, sauf si vous avez contracté le Covid. Une infection récente prolonge mécaniquement votre sésame, à condition d'avoir bien enregistré votre résultat de test PCR ou antigénique dans votre application Tous Anti-Covid. Vous avez un doute ? Pas de panique. En cas d'expiration imminente, un message d'alerte surligné en jaune apparaît dans votre carnet de vaccination dans cette même application. Mais attention aux mauvaises surprises. Si vous avez effectué votre rappel tout récemment, le QR code n'est valide que 7 jours après l'injection. Votre passe pourrait donc être désactivé momentanément si vous avez dépassé le délai de 7 mois dans l'intervalle. Enfin, le 15 février, il faut s'attendre à une nouvelle vague de désactivation puisque le délai maximal pour faire sa dose de rappel passe de 7 à 4 mois après sa dernière injection ou infection.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal poursuit en tout cas son parcours législatif.
Il a été adopté cette nuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le texte doit être discuté au Sénat dans les prochaines heures avant un vote demain des députés. Il devrait être opérationnel dès la semaine prochaine. Concernant l'épidémie, les hospitalisations en soins critiques sont en légère baisse pour le deuxième jour consécutif. Plus de 24 500 personnes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux, dont 3895 en réanimation.
La politique à présent, Éric Zemmour sur les terres de Xavier Bertrand pour parler éducation.
Le candidat à la présidentielle était hier dans les Hauts-de-France où il a tenu un meeting, un déplacement très stratégique, clairement adressé aux classes populaires, Victor Chabert.
Oui, Éric Zemmour a débuté sa journée dans le petit village d'Aunecourt-sur-Escaut, dans l'Aisne, après avoir rencontré le maire qui lui a apporté son parrainage. Il a échangé avec des enseignants, puis des habitants.
Franchement,
vous n'arrivez pas.
On n'arrive plus, les frères de nous, on n'arrive plus.
Eh ben, j'ai prévu beaucoup de choses, justement pour les salaires comme les vôtres. C'est-à-dire que, par exemple, je vais baisser vos charges sociales, votre CSG que vous payez, et ça va vous faire à peu près 1 200 € sur l'année en plus.
Dans les Hauts-de-France, Éric Zemmour veut unir les droites et séduire les classes populaires. Après avoir passé la journée sur des terres acquises à Marine Le Pen, il a donné un meeting à Saint-Quentin, la ville du LR Xavier Bertrand. Dans son discours, il a insisté sur l'école qu'il veut remettre au service des plus précaires.
L'école n'a pas seulement failli, elle a trahi sa vocation. Vous attendiez de l'école qu'elle donne à vos enfants ce que vous aviez perdu, qu'elle remplace votre courage épuisé par leur courage naissant. elle fait le contraire.
Son déplacement se poursuit aujourd'hui à Villers-Cotterêts, ville Rassemblement National de l'Aisne, sur le thème du patrimoine.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Notez qu'Éric Zemmour doit être jugé à Paris en mai 2023 pour diffamation aggravée pour des propos tenus en 2019 sur le mouvement féministe et le mouvement LGBT. Le tribunal a fixé hier cette date de procès. Valérie Pécresse poursuit sa visite en Grèce. La candidate LR était à Athènes hier pour évoquer l'immigration. Elle doit visiter aujourd'hui un centre de contrôle des migrants sur l'île de Samos.
La gauche va-t-elle avoir un candidat de plus à la présidentielle?
Christiane Taubira doit prendre la parole à 11h à Lyon. On devrait savoir si elle se lance ou pas dans la campagne présidentielle. Dans le même temps, Anne Hidalgo sera en déplacement à Vaux-en-Velin. On ignore si elle a prévu de croiser Christiane Taubira.
Le sport, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, sera l'invité exclusif d'Europe 1 Sport ce soir à 20h.
L'occasion pour lui de revenir sur son parcours de dirigeant, de parler des objectifs sportifs de son club et également évoquer le cas Karim Benzema. L'international français est-il le meilleur joueur formé à l'OL? Voici sa réponse.
Oui, incontestablement. Et c'est vrai qu'il y a un antagonisme entre sa réussite extraordinaire à laquelle on est... associé par le cœur, par la filiation, par... Et puis on se dit à chaque fois qu'il marque un but de plus et qu'il est aussi performant, qu'il s'éloigne du jour où il va revenir à Lyon, quoi, parce que bon, je vois pas le président de Madrid qui était venu ici. On avait visité à Villeurbanne Karim chez lui ensemble. Je le vois pas lâcher Karim, voilà. Mais ceci étant, ça, c'est sûr que dès qu'on aura la possibilité de pouvoir le faire revenir, alors je ne sais pas comment, ni si ce sera comme joueur, comme éducateur, comme, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un rêve.
Voilà, rendez-vous à 20h hein, sur Europe 1 Sport pour découvrir l'entretien exclusif de Jean-Michel Aulas en compagnie de Jacques Vendroux. Enfin, le plus célèbre auteur de théâtre français, Molière, aurait eu aujourd'hui 400 ans.
Jean-Baptiste Poquelin révolutionnait le théâtre au XVIIe siècle en inventant la comédie morale. À l'époque, Molière fait rire et surtout réfléchir les spectateurs en se moquant de la société. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Molière parle-t-il aux jeunes comédiens? Siam Spencer est allé rencontrer des apprentis comédiens du cours Florent.
C'est intemporel, Molière.
Leur texte à la main, ils sont 5 sur scène. Pour ces apprentis comédiens, jouer du Molière, c'est un passage obligé.
On propose qu'on dîne.
Là, tout le monde applaudira, voilà. On s'assoit.
Des pièces écrites il y a près de 4 siècles et pourtant, pour Lilian, qui a 20 ans, elles sont toujours bien d'actualité.
On travaille forcément à l'école. 400 ans après, il est toujours là et je pense qu'il restera encore dans 200 ans. Enfin ouais, la tromperie, des choses comme ça, je vois dans le Misanthrope, ils en parlent déjà. C'est ça qui est fort dans des grands écrivains comme ça.
Et pour ces comédiens débutants, la langue de Molière peut aussi s'avérer impressionnante au premier abord, comme l'explique Charlotte, 25 ans.
Ça a la particularité d'être des pièces en alexandrin, donc ça peut au début faire peur et en fait c'est des alexandrins très faciles à comprendre.
Alors encore aujourd'hui, Molière est un indispensable selon leur professeur Baptiste Caillot.
Il faut le connaître, il faut connaître ses textes, ses pièces et les avoir impérativement tous lus.
Auteur essentiel donc lorsqu'on veut monter sur les planches. Pourtant, aucun de ces comédiens en herbe ne compte présenter un texte de Molière à un concours ou lors d'un examen cette année. Les pièces de l'auteur sont jugées un peu trop classiques par ses étudiants.
Voilà, reportage Siam Spencer. C'était le journal de Clément Guise. Merci beaucoup Clément. Le temps de votre samedi, Valérie Darmon, c'est calme et beau, on va dire.
Effectivement, avec sous l'anticyclone des nuages bas et des brouillards qui retardent l'arrivée du soleil, notamment au nord, dans le sud-ouest et dans les plaines de l'est. Donc, comme dirait le Don Juan de Molière, si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Ouais. Et je ne peux vous dire clairement à quel moment les brouillards givrants vont se dissiper dans ce petit tiers nord.
Hein, tout à
hein. Oui, bah, c'est ça, n'est pas Molière qui veut, je vais le tenter. Il se peut même qu'on les y vende à prix d'or, ces nuages, pour faire du soleil un conquistador. Voilà, tout ça pour vous dire que
bien,
certaines régions...
Bien,
hein, je tente tout. Hein. En même temps, Amphitryon disait « Et d'une raillerie à ton lieu de s'aigrir, cher Thierry ». Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il fait froid.
Oui,
couvrez-vous partout.
Ça. Merci beaucoup Valérie Darmon. À tout à l'heure. 7h38, la photo de Paris Match, c'est tous les samedis avec la patronne de la rédaction. Bonjour Caroline Mangès.
Bonjour Thierry.
Alors lundi débute l'Open d'Australie Tennis avec le feuilleton Djokovic, reportage dans Paris Match, dans la tête de Novak, le numéro 1 mondial qui a défié les autorités australiennes et dont le visa a été annulé hier une deuxième fois. Information de cette nuit, il a été placé en rétention. Caroline, il a menti.
sur toute la ligne. D'abord, il s'est vanté d'avoir une exemption de visa, mais non seulement ça, mais il a trafiqué son QR code, enfin, il aurait trafiqué son QR code, il a antidaté son dernier Covid, parce que ce n'est pas la première fois qu'il est contaminé, puisqu'il se fiche des masques, il se fiche du vaccin. Ouais. Et de tout.
Et d'ailleurs, vous publiez, Caroline, beaucoup de photos de lui, notamment en Serbie, le 17 décembre. Il est sans masque au milieu d'ados, alors qu'il était positif mi-décembre. Il a appris sa contamination la veille de cette photo.
Exactement. Il sait qu'il est contaminé et il persiste, il signe. Il est au milieu de ses enfants à qui remet des trophées. Mmh. Et bon, en Serbie, c'est un héros. Il faut savoir que c'est une personnalité extrêmement clivante. Pas très aimé des autres joueurs, pas très aimé des Français d'ailleurs non plus. Ouais. Mais en Serbie, c'est un héros, il peut tout se permettre.
Vous racontez dans cet article comment il est très sensible au gourou.
Alors, il a un mode de vie très particulier. Une bascule en 2010 quand il rencontre un certain nombre de... un nouveau coach, notamment, qui s'appelle Pepe Imaz. Ouais. Et qui est adepte des théories conspirationnistes. Ensuite, il a un nutritionniste qui lui apprend qu'il est... allergique au gluten en lui posant du pain sur l'estomac et tout d'un coup il réagit. Ouais. Il abandonne la tomate de la même manière après l'avoir posée sur son estomac. Ouais. Et puis il a aussi une autre gourou du bien-être qui lui explique que quand on prie beaucoup, on peut rendre un aliment toxique complètement vertueux et voire curatif.
Voilà. Donc, pour les coulisses, on va dire, de ce numéro 1 mondial du tennis non vacciné qui a accumulé les irrégularités, c'est-à-dire dans Match cette semaine. Merci à vous, Caroline Mangès.
Merci, Thierry.
Et puis, dans la presse ce matin, Djoko dans les cordes à la une de l'équipe. La cinquième vague approche de son pic pour Ouest France. La menace de l'abstention, titre Le Figaro. Restez avec nous tous les samedis matins à cette heure-ci. On fait le plein d'idées de sortie. C'est dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Et à 8h moins le quart, tous les samedis, c'est par ici les sorties pour faire le plein d'idées pour votre week-end avec Stéphanie Loire, avec Laurie Choleva et avec Nicolas Carreau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Laurie, on commence avec vous et avec un drame social avec Juliette Binoche à voir au cinéma.
Eh oui, le très beau Ouistreham, présenté au dernier Festival de Cannes et adapté du roman de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, que vous avez sans
très
doute lu.
Très beau roman.
Génial.
Ouais.
Parfait.
Voilà.
Immersion.
Recommandé par
mais est-ce
l'équipe.
Que ça rend bien au cinéma, et c'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Et moi, je me permets de vous recommander le film, qui est vraiment un très joli film. Je vous rappelle donc que c'était Florence Aubenas qui s'est glissée dans la peau d'une femme de ménage précaire, allant de petit contrat en petit contrat. Elle en a fait un livre et Juliette Binoche a milité pour en faire un film.
Ferry, c'est Opération Commando. Escale de 1h30, pas une seconde de plus. Pays au swing. Faut aller très vite, c'est très dur. On y va parce que le bus nous attend, le ferry lui n'attend pas. Les invisibles, je veux les rendre visibles.
Qu'est-ce qui veut être marié avant la fin de l'année ? C'est toi.
Vous n'avez aucun doute, vous ?
Ça m'arrive. Mais là, ce que je veux raconter, c'est plus fort que mes doutes.
Juliette Binoche qui porte ce film avec élégance, avec pudeur, avec sensibilité. Un film, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, qui rend visibles les invisibles, qui parle de la précarité, qui dénonce les conditions de travail, notamment sur les ferries. Mais c'est aussi un film sur l'amitié, sur le droit au respect, sur la solidarité, avec, je le précise, des actrices non professionnelles absolument remarquables.
Alors Laurie, autre salle, autre ambiance.
Oui, c'est vrai.
On va frissonner grâce à une suite très attendue.
Oui, alors si vous aimez les slasher movies, je rappelle, c'est ce sont ces films d'horreur qui
si
mettent en scène
ado,
un
quoi,
tueur.
Avec des jolies filles.
Avec des jeunes qui se font généralement trucider par un tueur masqué. Les slasher movies.
D'accord.
Et bien forcément, vous aimez Scream. Et là, on l'attendait avec impatience, c'est la sortie de Scream 5 au cinéma. Donc retour aux sources, ou plutôt à Woodsboro, la ville où tout a commencé pour Sidney Prescott, avec une nouvelle génération qui doit faire face au Ghostface.
Arrête, c'est pas drôle, Amber.
Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara?
J'ai peur.
Alors
déjà.
Voilà, vous allez sursauter, vous allez crier, vous allez hurler, il va y avoir de la profusion d'hémoglobine. Il y a un hommage à Wes Craven, le réalisateur de la saga, et le retour des comédiens emblématiques Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette.
Merci beaucoup Laurie. Alors
avec
depuis
plaisir.
Ce matin, 6h, vous le savez, on rend hommage à Molière, 400 ans de sa naissance aujourd'hui. On était avec Jacques Weber à 7h10.
J'ai cru que c'était Jumanji.
Ah non, mais c'est produit, les amis. Attendez, Nicolas Carreau.
Oui, il y a beaucoup de livres
oui,
aussi qui paraissent sur le sujet, évidemment. À commencer par le coffret Pléiade,
que Gallimard réédite, bon ça c'est indépassable, deux volumes. On y trouve les grands classiques, Tartuffe, L'Avare, Les Précieuses Ridicules, Ganarelle, etc. Mais ce qui est bien avec les Pléiades, c'est qu'il y a aussi l'appareil critique, l'histoire des pièces, l'histoire de Molière lui-même aussi.
Là, ce sont les textes bruts. J'imagine qu'il y a aussi des beaux livres.
Hein. Oh oui, plein. Et notamment l'Atlas Molière aux éditions des Arènes. Tout sur Molière avec des cartes, des tableaux, des chiffres. Comment il a créé l'illustre théâtre, comment il a réussi à imposer ses pièces. C'est le génie de Molière, mais pas seulement comme dramaturge, aussi comme pro du marketing. Alors, il y a aussi toutes les rééditions des biographies de Molière en format poche. Vous allez voir les tables consacrées à Molière dans les librairies, il n'y aura qu'à se baisser. Il y a aussi des romans comme celui d'Ève de Castro à l'Iconoclaste, l'autre Molière qui se penche, mais par la fiction, sur une vieille thèse, pour ne pas dire une théorie du complot, qui considère qu'en fait, ce n'est pas Molière qui a écrit ses pièces, mais Corneille. Vous savez, on n'a déjà jamais retrouvé un seul manuscrit de Molière, ça c'est vrai. Ça s'explique par tout un tas de raisons, mais c'est vrai. Et donc, à partir de ce constat, début 20e est apparue l'idée que peut-être, éventuellement, ce ne serait pas Molière, mais Corneille qui aurait écrit les pièces. Il avait besoin d'un prête-nom pour que lui, le tragédien, puisse écrire des comédies. C'est amusant, mais c'est du roman.
Et Nicolas, dans la presse aussi, j'imagine qu'on le retrouve.
Oui, notamment dans le hors-série Du Point, toujours très bien fait, il est sorti cette semaine. Et puis le journal Le 1 propose lui aussi son édition spéciale, un hors-série.
Et puis Molière, toujours aussi noté que ce samedi de 17h à 23h, sur le site de la Comédie Française, caméra embarquée dans les rues de Paris sur les pas de Molière. Et puis à 20h ce soir, sur Internet et dans 200 cinémas en France, Tartuffe en direct de la Comédie Française. La Comédie Française qui était bien sûr la maison de Molière. Vous restez avec nous dans un instant. La suite avec Stéphanie Loire, avec...
Respirez Thierry.
Johnny Hallyday. A tout de suite sur Europe.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h48, l'essentiel de l'info, Clément Guise.
700 000 passes sanitaires désactivés aujourd'hui. Cela concerne tous ceux qui, 7 mois après leur dernière injection, n'ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin et ne peuvent pas non plus justifier d'une infection récente au Covid-19. Les hospitalisations en soins critiques sont en légère baisse pour le deuxième jour consécutif. Plus de 24 500 personnes sont actuellement prises en charge, dont 3895 en réanimation. Organisez-vous si vous devez prendre un train ce week-end. Le trafic ferroviaire est interrompu, gare de l'Est, en raison de travaux. Les départs et les arrivées des TGV se feront depuis la gare du Nord jusqu'à demain. Novak Djokovic, renvoyé cette nuit en rétention administrative à Melbourne après l'annulation de son visa pour la deuxième fois par les autorités. Une audience en référé est prévue demain. Le tournoi débute ce lundi.
Merci Clément, à tout à l'heure. Dans un instant, on retrouve Laurie, Stéphanie et Nicolas. Par ici, les sorties, deuxième partie. On va parler notamment des enfoirés. On revient tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Par ici les sorties, la deuxième partie. Laurie, Nicolas et Stéphanie, ils sont là pour vous.
Toujours là,
évidemment, enfin.
Stéphanie Loire, la musique à présent avec vous, avec des coffrets vinyle collector de la légende Johnny Hallyday.
Oui, l'immense discographie de Johnny est aujourd'hui décortiquée et c'est probablement loin d'être terminé, hein, j'imagine. Pour le plus grand plaisir des fans de la star, des nouvelles versions sont disponibles depuis le 7 janvier au format vinyle 45 tours numéroté et en tirage limité. Attention, ça ne déconne pas. Ouais. De la chanson « Pour moi, tu es la seule », un titre porté par la rage du chanteur dans les 70s. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe. Cette chanson, elle a été enregistrée en 1963 à Nashville. Ouais. Vous aviez à peine 2 ans, Thierry, à cette époque.
Vache. Non, il avait 12 ans.
J'étais même pas conçu. C'était à Nashville pour Johnny Hallyday. 7 ans plus tard, il a réenregistré cette chanson à Londres, cette fois chargée d'une hargne qui explose le mur du son, parce que Johnny Hallyday des 60s, il est plutôt dans la douceur des standards de l'époque. En revanche, celui des 70s, il a la rage, plus rien ne peut le freiner. Notez aussi que l'album Vie de Johnny Hallyday, sorti à l'aube des années 70, sera réédité le 22 janvier prochain. Un album qui marque la rencontre musicale entre Johnny Hallyday et le journaliste écrivain.
Ah oui.
Cinéaste
Philippe Labro.
Philippe Labro, quel duo. Un disque à part dans la carrière de Johnny, plus engagé, plus sombre. Cette version collector, elle rassemble des versions alternatives inédites, des lives à Cambrai enregistrés en 70. Ce que vous venez d'entendre, c'est les doigts de Nicolas Clairaut qui craquent. Non mais cet homme est un robot en fait. Hein. Excusez-moi, c'est complètement fou.
Vous croyez où là? On n'est pas à la maison.
Mais si, on est à la maison. La radio, c'est comme la maison. Allez, on écoute un extrait, puisque dans ce... Je suis perdu moi avec ces craquages. Dans cette réédition, il y a la bande originale du film Le Spécialiste, un western signé Sergio Corbucci. On écoute, c'est Johnny qui chante.
Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort.
Alors, c'était pas le meilleur rôle de Johnny au cinéma.
Ouais, c'était pas le meilleur.
Mais pour le plaisir du souvenir et de la nostalgie, c'est toujours sympathique, ça balance ce matin ici. Ouais. Dans cette édition collector de l'album Vie, on retrouve notamment Deux amis pour un amour. Ou encore aussi sa chanson « Rendez-moi le soleil ». Des éditions limitées et numérotées, ouais. Le vinyle super édition de luxe à 4000 exemplaires.
Super.
Et la version vinyle enrichie de l'album Vie à 2000 exemplaires. Je sais que vous aimez le téléachat Thierry, mais je n'ai pas les prix.
C'est pas
je suis désolée.
C'est pas plus mal qu'à
c'est vrai, il aime bien les prix Thierry. Ouais.
Il aime bien, ouais.
Mais oui, c'est important de donner les prix.
Bah
enfin,
oui, c'est faites une émission d'économie, enfin.
Allez, on parle. Stéphanie, à présent, des Enfoirés.
La chanson des Enfoirés, le nouvel hymne est disponible. La chanson, elle est signée Jacques Véné-Rousseau. C'est le collaborateur régulier de Céline Dion, à qui on doit notamment Sous le vent, cette chanson qu'on chante tous en karaoké. Ce nouvel hymne des Enfoirés, il s'appelle Il y aura toujours un rendez-vous. Il est disponible en téléchargement au profit des Restos du Cœur. Je rappelle qu'un téléchargement permet de financer un repas. Et puis, puisqu'on ne peut pas donner le spectacle, eh bien, il y a un énorme manque à gagner, puisque les restos se privent de 4 millions d'euros en l'absence du public.
C'est important, hein.
Il faut acheter le CD ou le DVD, c'est important. On en écoute un extrait, c'est Soprano qui ouvre le bal. On reconnaît aussi Julien Clerc, Jennifer, Kenji Girac, Zazie, Benabar, ou encore, dans le fond, Thierry Dagiral.
Merci à vous, justement. Le nouvel hymne des Enfoirés.
Grande
c'est
forme,
maintenant,
Stéphanie.
Sur Europe 1.